Les sportifs, ils peuvent se foutre de ma gueule s'ils veulent. S'ils veulent. Mm. Ça me gêne pas, mais moi je me fous de la leur. Bumpy.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans EPO, l'épatant podcast Omnisport, le podcast qui parle du sport au passé et du passé à l'imparfait. Nous sommes le 25 juillet 1999 et le monde du cyclisme est sous le choc. C'est incroyable, ça n'est jamais arrivé. Un ancien malade du cancer gagne le Tour de France. Non, il ne le gagne pas. Il le survole. Il est américain, il s'appelle Lance Armstrong et il y a encore 2 ans, il était sur un lit d'hôpital à l'aube d'une mort certaine. Un an après le Tour de la Honte de 1998, marqué par des affaires de dopage à l'appel, on a envie de tourner la page et de croire à cet improbable miracle. On en a besoin. Par la suite, Lance gagnera 6 autres Tours de France, écrasera concurrence, records et malheureusement nos derniers espoirs, ceux d'un cyclisme retrouvé. Ce mois-ci, EPO revient aux origines de son nom et vous parle d'un homme qui a tout fait pour gagner. Quitte à mettre au point le programme de dopage le plus sophistiqué jamais vu dans l'histoire du sport. Quitte à connaître la plus grande des chutes. Quitte à tricher pour gagner, comme le dit si bien ce grand philosophe, Keninho.
J'ai promis d'être le premier, quitte à tricher pour gagner.
Voilà, je voulais le citer absolument, je trouvais qu'il était essentiel pour ce podcast. Alors, pour faire la voiture balai avec moi aujourd'hui, une flopée de cyclistes bien accrochés à leur guidon. Bonjour Chloé.
Bonjour, Ninho est en concert à Bercy en décembre,
très
n'oubliez
bien,
pas.
Ouais, peut-être avant qu'on diffuse cet épisode, on ne sait pas. Bonjour Younes.
Bonjour à tous.
Bonjour Thomas.
Bonjour à tous.
Et bonjour Thibaut.
Bonjour, bonjour.
Et alors avant de faire du hors catégorie en danseuse, un petit extrait tout de suite.
Hier, à l'heure où l'Amérique du Nord passait à table, Lance Armstrong est donc passé aux aveux devant le confessionnal cathodique d'Oprah Winfrey, tout en brushing et en questions précises.
Avez-vous utilisé de l'EPO pour améliorer vos performances?
Yes.
Avez-vous eu recours à des transfusions sanguines?
Yes.
Avez-vous utilisé de la testostérone, de la cortisone ou des hormones de croissance?
Yes. Yes or no?
Oui ou non, vous êtes-vous dopé lors de vos 7 victoires dans le Tour de France?
Yes.
Armstrong ajoutera même qu'il n'est pas possible de gagner 7 Tours de France sans se doper. Ce fut une interview sans déballage lacrymal, car l'Américain était aussi maître de ses émotions à dire la vérité qu'il l'était quand il débitait des mensonges.
Avez-vous tué John Fitzgerald Kennedy? Yes.
Yes.
Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, une petite question pour vous, hein, comme à la Augustin Trapenard. Et vous, Lance Armstrong, ça vous évoque quoi? On va commencer par toi, Younes.
La plus grande de mes colères en tant que téléspectateur de sport, voilà. La trahison ultime, le viol des méninges, enfin absolument tout ce que je déteste dans le sport. Et effectivement, ça a duré très longtemps et rien que pour ça, je ne pourrais jamais tourner la page.
Ouais, donc t'es pas un grand fan, quoi.
En fait, je l'ai été. Ouais. Donc voilà, je suis trahison.
Très bien, Chloé.
J'aime pas trop Lance Armstrong, bizarrement. Un peu, je sais pas, Younes a résumé pas mal de choses. Après, moi, j'ai pas eu l'espoir suivi de cette grande colère et frustration qu'ont pu vivre beaucoup de fans. Mais j'étais vraiment en colère en regardant, en étudiant l'affaire pour cet épisode, en regardant son super documentaire et en le voyant pleurer dans son beau salon devant sa belle cheminée.
Et toi, hein, tu tombes dans le panneau.
J'ai tout perdu. Et tu
Ouais, mec.
Te laisse pas intoxiquer, Chloé.
Je suis énervé.
Tout ça est faux.
Je suis énervé.
Thomas.
Eh ben, nous, quand on était petits, on jouait un petit peu au Tour de France quand c'était l'heure du Tour de France et on choisissait tous un petit bonhomme. Il n'y avait pas grand monde qui choisissait Lance Armstrong. En revanche, même si je ne le connaissais pas bien, j'avais beaucoup de sympathie pour un de ses camarades qui était Yann Ulrich. Et du coup, pour moi, Lance Armstrong, c'est un peu mon pire ennemi sans le savoir. Après, j'ai un peu étudié la chose et je me rappelle surtout de quelques rumeurs concernant le dopage. Et voilà, je dois admettre que ça ne facilite pas mon amour avec ce monsieur.
Tes rumeurs ont été nourries.
J'attends de voir ce qui va se passer dans
le. Oui, oui, il faut. étayer les faits. Il a raison, on ne sait pas encore ce qui va se passer.
Comme Saint Thomas, je crois que ce que je vois est ce que j'entends.
Et alors, Thibaut.
Bah dis donc, Thibaut. Je suis sceptique sur tout ça. Moi, je l'aime, je demande à être convaincu. Non, alors, c'est un peu l'inverse de Younes. Moi, Armstrong, je suis un dingue du Tour de France. Je ne l'ai jamais beaucoup apprécié. Et à partir du moment où il a avoué, je me suis dit, mais merde, en fait, j'ai plus envie d'autant le détester. Enfin, c'est un peu le syndrome inverse.
J'argumenterai plus tard, mais effectivement, je peux comprendre ce que tu dis. Mais par contre, j'argumenterai et tu verras que tu as tort.
Mais il faut t'avouer à moitié pardonner, c'est ça.
Donc, on peut lui laisser au moins 3 Tours de France, si c'est à moitié pardonné.
C'est une sorte de syndrome de Stockholm du sport, où quand tu te prends en otage sur les sentiments que tu as pu avoir, tu l'aimes finalement.
Exactement. Younes, il est un peu comme le personnage trompé au théâtre.
Je suis comme le traiteur, intraitable.
Il est pas sur mute, Younes.
Non, par contre, Younes est sur Copain d'avant, hein, n'hésitez pas.
C'est le plus grand réseau social.
Son adresse caramel est référencée sur Copain d'avant.
Seul réseau social.
Donc moi, j'argumenterai aussi, mais j'ai pas envie de le détester autant que tout le monde le déteste.
D'accord. Et toi, Olivier?
Moi, je le déteste, et comme tout le monde le déteste, et même plus. Ouais. Voilà, pareil, moi, j'y croyais pas. Moi, j'y ai jamais cru aux victoires d'Armstrong.
Ah oui, déjà.
Ouais, j'avais le flair. Ah ouais, déjà à l'époque.
Alors, je me rappelle quand on en parlait, Olivier, tu me disais, bon, un mec quand même qui allait sur la lune, qui est si bon musicien, il peut pas avoir gagné le temps, être aussi fort en vélo, et t'avais pas tort.
Le mec fait tout, attends, excuse-moi.
Il fait
de la trompette sur la lune en faisant du vélo. Mais moi, je suis un peu comme toi, pour le coup, j'étais plus Team Ulrich, alors vraiment, je trouvais qu'il avait plus. Bah ouais, je l'aimais bien, Ulrich.
Bah moi, j'étais très Pantani,
en fait,
tu vois.
En vrai, moi, j'aimais bien, j'adorais évidemment Pantani.
Mon idole.
Mais j'aimais bien Isabelle aussi, bon, bref. Et donc, du coup, en voyant tous ces reportages, je l'aime encore moins, je trouve qu'il est en fait il est américain, enfin pardon, il est c'est la caricature.
Attention, non, pas d'anti-américanisme,
je reprends,
pas ici, pas ce soir,
américain,
pas sous mon toit,
il est texan,
mais pardon, c'est la caricature.
Merci,
la mauvaise caricature que tu peux avoir de l'américain, et il ne fait rien pour les États-Unis. Je veux dire, c'est terrible, et quand tu l'entends parler, il n'a aucun sentiment. On verra plus tard que c'était un salopard avec le peloton et avec tous les faibles qui osaient aller sur sa route.
Ça, c'est vrai.
Et il n'a, en fait, le fait qu'il soit dopé, à la limite, qui triche, à la limite, c'est pas si grave, tout le monde le fait. Le fait qu'il le triche en utilisant sa maladie, en utilisant le fait qu'il vient d'une famille pauvre alors que pas tant que ça, etc., etc., ça me fout les boules.
Ça
me fout les jetons. Et voilà, et moi je le dis.
D'ailleurs, voilà. Restez connectés, on vous expliquera qu'il n'a jamais eu de cancer. Hein. 1h15 d'antenne.
Et ce soir en exclusivité, nous allons parler du cancer inexistant de Lance Armstrong.
La non-maladie.
Alors, ça y est, on est parti, on va y aller. Avant de commencer de parler de ça, carrière, on va parler de la naissance du mal, M-A-L-E, et puis M-A-L aussi. Qui peut nous en dire un peu plus? Où il est né? Qui est ce monsieur?
Thibaut, qui a l'air très, très chaud sur le sujet.
Les fleurs du mal. Et
toi,
ben, nous sommes au Texas.
L'origine du mal.
Nous sommes au Texas, septembre 1971. Le petit Lance Armstrong naît d'une maman et d'un papa. Jusque-là, tout va bien. Il est très complice avec sa mère, beaucoup moins de son père, qui en fait va très vite l'abandonner. Plus que très vite, il ne l'a jamais connu, tout simplement.
Foyer. Ça, c'est pas drôle. Oui.
Et ça, c'est pas drôle du tout. Il sera ensuite adopté par Terry Keith Armstrong, d'où son nom, quand il aura 3 ans. Son père est pas très sympa, c'est une éducation plutôt difficile à la dure qu'il va devoir subir. Le papa est violent.
Dure comment ?
Dur comme...
Comme les œufs.
Oh non, c'est reparti.
Et c'est parti, 5 minutes d'émission.
Donc on a un petit Lance Armstrong qui a une éducation difficile et qui n'est pas très très heureux et qui va faire du sport pour oublier ses premiers soucis de la vie.
Ouais. Alors c'est un message d'espoir pour toi, Thomas, parce qu'il a été appelé Lance à cause d'un footballeur américain, ce qui fait que tu peux appeler ton enfant, si un jour t'en as un, tu peux appeler Zizou, hein, y a pas de souci.
Voilà,
ça passe.
Parfait.
Et alors,
Ibrahimovic.
Éducation à la dure par Terry Crews. Armstrong, il y a un truc qui me fout, j'en parlais, c'est qu'il va toujours dire qu'il est issu d'une famille très pauvre. Il va toujours en jouer qu'il va essayer de se créer une histoire, alors qu'en fait non, son père est cadre, je crois, enfin un peu moyen.
Il est salarié lambda, mais il n'a pas assez d'argent à la maison.
Il n'est pas riche non plus, mais il n'est pas de vraiment, on peut pas vraiment le plaindre. Mais il décide déjà de prendre ce caractère d'un peu, de se raconter une petite légende.
Oh, on appelle ça storytelling,
poliment, un mytho.
Voilà. Un mytho. Il va pas quand même faire du sport. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il va faire comme sport, Thomas, au départ?
Eh ben, on le sait tous. Il a gagné plein de Tours de France, donc évidemment, il va se lancer dans la natation.
Voilà. Bravo.
Il commence par la natation. Donc la natation, c'est ce que se référait à l'épisode sur l'hormone eau douce, c'est tout ce qui se passe dans les bassins, les piscines. Et à la natation, bah, il dit lui-même qu'il est pas très bon. C'est étonnant pour un mec qui a été champion de.
Ah, parce que c'est-à-dire qu'il allait dans la piscine à vélo, donc effectivement, voilà, c'était compliqué.
Ça coulait un peu.
Ça pédale bizarrement. Et non, mais blague à part, il commence, il est pas exceptionnel, mais il y a une. Alors. Est-ce que c'est vrai ou pas, mais il joue du fait d'être tellement en colère de son enfance, de ce qu'il subit, que bah il s'entraîne beaucoup et ça développe une certaine rage de vaincre, un peu comme comme tous les personnages comme Ibrahimovic, etc. Puisque je me sens obligé de le citer à chaque épisode maintenant.
C'est bien.
Et voilà. Et du coup derrière, il va commencer un petit peu à mêler. Il va faire tester le vélo un jour, peut-être en allant chez un copain. Il se dit tiens, ça va vachement vite, c'est sympa. Et si je commençais. Et il y a des sports qui mêlent le vélo, la natation. Et la course à pied.
Eh ben, c'est le billard.
Voilà, le billard. Non, le triathlon.
Ouais. Et là, pour le coup, au triathlon, il est très bon.
Ouais, il est très fort.
Il est très vite, très bon. Des premiers titres de champion national à la fin des années 80, début des années 90. Donc, quand t'es champion national aux États-Unis, c'est que t'as un niveau de malade, tout simplement.
Et surtout, en plus, il triche parce qu'il a pas l'âge. J'arrive pas à articuler, mais ça va le faire. Il a pas l'âge réglementaire pour participer à ça. Il n'a que 15 ans. Il a falsifié des papiers pour pouvoir participer au championnat.
Déjà un petit goût pour la magouille.
Non, la volonté.
Une fripouille, Thibon, te dit.
Il y a un truc qu'on n'a pas dit sur son enfance, même si, mais je pense que ça joue aussi un peu, c'est que ça, enfin je sais pas si on l'a dit, je vous écoute pas en fait, c'est que sa maman elle l'a eu très très tôt.
On l'a pas dit mais tu viens de le préciser.
À 16 ans, et ce qui fait que le rapport entre au fil du temps entre Armstrong et sa mère, il est très fusionnel. Et quand il falsifie ses documents comme tu dis Chloé, il a l'accord total de sa maman pour le faire.
Oui. Et de sa maman qui l'encourage, je crois, à fond dans tous les sports qu'il fait, qui essaye de le canaliser un peu là-dedans.
C'est positif,
parce qu'il a une personnalité un peu hyperactive et ça lui fait du bien en fait. Même la natation où il dit qu'il est mauvais et tout, ça c'est un fait, mais au moins il est canalisé.
Mais il racontait quand même qu'il allait de chez lui le matin à l'école à vélo et que ça l'a forgé.
Et du coup, tout naturellement, il va choisir du coup la matière forte du triathlon pour continuer. Il va faire du vélo. En quelle année il arrive chez les pros?
Il commence à être professionnel en 1992, après avoir été champion des États-Unis amateur. Et là, très vite, il a des premiers bons résultats sur le circuit pro. Alors, on va pas vous faire le début du palmarès, mais c'est plutôt très encourageant. Il est champion des États-Unis. Il gagne des courses assez importantes.
Il a signé chez Motorola en 92. C'est sa première équipe.
Tout à fait.
Et c'est en équipe italienne.
Donc, c'est italien Motorola ?
Oui.
Ah, je sais pas. D'accord.
On apprend des trucs à EPO.
C'est vachement bien.
Motorola.
J'ai un doute sur Motorola, mais bon.
Une première apparition au Tour de France, il abandonne à la 12e étape, donc on est encore loin des grandes victoires. Mais deuxième Tour de France aussi, 1994, pareil, il abandonne un peu plus tard, à la 15e étape cette fois. Il n'est pas encore formé pour des grands tours.
Il arrive quand même à finir, par exemple, au premier Tour de France auquel il participe, il finit premier de la 8e étape, alors que son premier Tour de France est quand même.
Il gagne une étape quand même, parce que pas toujours donné à tout le monde, il y en a qui attendent vie.
C'est certain.
Tout à fait. Et du coup, donc on a évoqué quoi, le Tour de France. Est-ce qu'on pourrait peut-être résumer ça en 60 secondes, Chloé, par exemple?
On peut, mais je peux même te le faire en 3 secondes.
Ouais.
Alors, vous êtes prêts? Ça va aller très très vite. C'est parti, le Tour de France est une compétition cycliste qui, comme son nom l'indique, fait le Tour de la France. Merci, au revoir.
Très bien, mais merci beaucoup. Et du coup, on va quand même faire un vrai 60 secondes chrono.
Oui, on va en faire
maintenant.
Un vrai. Alors, on va en faire un vrai sérieusement, même si on peut vous proposer de réécouter les épisodes, notamment sur Marco Pantani et l'affaire Festina, où on a quand même pas mal traité le sujet. Donc, très rapidement, on va dire que la première édition du jeu a lieu en 1903. Et évidemment, c'est pour augmenter les ventes du magazine Lotto. Et oui, Lotto, qui voulait faire plonger le magazine concurrent Vélo, a décidé d'organiser une compétition au prix du coup d'entrée gratuit pour faire venir tout le monde.
Sachant que le magazine Trottinette était déjà en crise à l'époque.
Ouais. C'est ça, les
Trottinettes
électroniques, c'était un peu dangereux,
ils avaient
des morts. Ouais. Non, c'était compliqué. Donc, c'est une course qui a lieu chaque année. Ça rassemble jusqu'à 40 nationalités différentes. C'est le troisième événement sportif le plus regardé après les JO et un truc qui s'appelle la Coupe du Monde. Mais alors, jamais entendu parler.
Moi, non plus. Obscur.
Ça se déroule en été. Je pense que vous avez tous remarqué. Moi, j'ai toujours chez mes parents la télé allumée toute la journée, le mois de juillet.
La sieste.
Oui.
Et alors, si le parcours change, s'il change chaque année, il y a au moins toujours deux contre-la-montre. Ça passe forcément par les chaînes des Pyrénées et des Alpes, et ça finit sur les Champs-Élysées, après au moins une vingtaine d'étapes. Ça fait au total un peu plus de 3500 km qui sont parcourus. Pendant longtemps aussi, ça n'a pas été clair qui concourait, donc équipe de marque, équipe nationale ou participation individuelle. Ça changeait tous les ans, avec une mention spéciale pour la période où il y avait des départs différés toutes les 15 minutes. Ah. Ouais, ça, c'était une période un peu compliquée, mais ça favorisait certaines équipes, bizarrement. Avant 1987, les équipes elles étaient composées de 10 coureurs jusqu'à 14 coureurs parfois. C'est redescendu à 9 et depuis 2018, on est à 8 coureurs par équipe.
Et puis il y a la caravane du Tour.
Et la caravane du Tour qui ramasse les gens qui sont restés sur le bas-côté.
Mais merci
et
beaucoup.
Et l'équipe Cochenou.
Et l'équipe Cochenou, toi tu l'aimes hein, l'équipe Cochenou.
Oui.
Oui, bien sûr. Merci beaucoup, c'était très clair.
Merci.
Faut savoir, 3 semaines c'est long. Hein, voilà, oui. 3 semaines avec tous les jours, l'effort tous les jours, c'est très long. Certains disent qu'on ne peut pas faire ça sans prendre des produits. Nous verrons ça un petit peu plus
on
tard.
On ne peut pas faire ça sans prendre de compote.
Alors, eh ben, ça marche plutôt bien pour Lance Armstrong, à tel point que en 95, il est 9e du classement UCI. L'UCI, c'est l'Union Cycliste Internationale, celui que l'on de la FIFA, quoi, oui. Voilà, au foot. Et il est 9e, ce qui est...
Ça commence à être une vraie tête d'affiche du cyclisme. C'est un bon coureur, bon coureur.
Et donc, nous sommes en 95, et en 96, il se passe un truc pas très très cool. Qu'est-ce qui se passe en 96, les amis?
Alors, déjà, il se passe... alors, il y a du cool et du moins cool. Ce qui est cool pour lui, c'est qu'il change d'équipe, il part chez Cofidis et alors qu'il est en train de faire du vélo, tout va bien, il est avec un copain et là il se dit aïe, j'ai mal aux testicules. Alors je saurais pas dire si c'est gauche ou droite, le fait est que le problème de testicules est assez grave puisqu'il s'agit, je fais directement le diagnostic, d'un cancer de tes testicules.
Aïe, oui.
Du coup, le cancer qui est diagnostiqué, donc il y a plein de choses autour, il y a des métastases au poumon, à l'abdomen et au cerveau. Il faut savoir que là, on est à un moment où Armstrong, il est donc sur une chance sur deux d'y laisser la vie. C'est quand même pas extraordinaire comme constat.
Mais même plus, enfin, tu dis quand on voit le reportage là sur Disney Plus ou quoi, et parce qu'on a vu un reportage sur Disney Plus,
qui s'appelle Lance,
qui est plutôt pas mal pour le coup.
Mais ne pas regarder forcément avec les enfants, non. Parce que notamment cette partie-là, il est méconnaissable, il est amaigri.
Ouais, c'est un peu chaud, mais le reportage pour le coup est très bien, on le conseille. Et c'est enfin le médecin qui dit une chance sur deux. Enfin, clairement, c'était une chance sur une. Hein,
oui, c'était une chance sur deux. Alors, ce qui est dit à l'intérieur du reportage, c'est une chance sur deux pour lui faire plaisir à lui, pour lui donner espoir, parce que le médecin il fait une drôle de tronche effectivement.
Oui, donc là on arrive, il a le cancer au moment où ça commence à marcher pour lui. Là il n'y a même plus question de savoir s'il va refaire du vélo, c'est en fait s'il va savoir survivre.
Oui, est-ce que je peux encore vivre et espérer continuer de respirer.
Et malheureusement il meurt et c'est la fin de notre podcast. Merci beaucoup de nous avoir écouté.
Et non. Prochaine.
Et non, il ne meurt pas malgré la chimio qui sera
et une opération assez lourde,
fatigante, ouais. Et une opération fatigante, il va être en rémission, hein, oui. Et il va s'en sortir et ça c'est déjà un petit miracle.
Bah oui, un grand miracle.
Et c'était un combat qu'il a gagné et ça, quoi qu'on en dise, chapeau.
C'est une belle victoire et celle-là on lui enlèvera pas. Vous lui enlèverez pas tous les révisionnistes sur ce plateau.
Même si dans une heure et demie, nous allons parler du fait qu'il n'a jamais eu le cancer.
Mais c'est ça qui est fort dans son histoire, mais c'est aussi ça qui m'énerve le plus. C'est que vraiment, ça aurait pu être une belle histoire de champion qui sort de nulle part.
Oui.
Ce qui est énervant, c'est que déjà, je pense qu'il a eu le cancer parce qu'il se dopait. Mm-hmm. Et ensuite, il s'en sert beaucoup de son cancer ensuite pour parler de ses performances. Ce qui est doublement malhonnête. Mm-hmm. Parce qu'il est dopé et en plus. Enfin, bref.
Après, surtout que c'est pas le premier cas de dopage.
Le cancer, pour le coup, on ne sait pas s'il l'a eu à cause de ça, tu vois. Enfin, on n'en sait rien.
On suppute, mais effectivement, on n'en a aucune preuve. Mais en revanche, on ne peut pas lui enlever d'avoir donné énormément d'espoir à beaucoup de gens.
Oui.
Qui, effectivement, en rémission, ont besoin parfois d'avoir des modèles. Voilà.
Alors, hourra ! Formidable ! Hourra ! Bravo, Lance ! Tu es vivant. Maintenant, il faut que tu cherches une nouvelle équipe, car tu n'es plus à Cofidis. Qui va vouloir de toi ? On se le demande.
Et là, arrive la poste américaine,
l'US
Postal, qui dit « Mais nous, on veut bien miser sur lui. » Alors sa dernière année de contrat chez Cofidis, qui était une année de reprise post-cancer pour lui, était vraiment pas terrible. Il était pas très bon. Et l'US Postal, à l'époque, est une petite équipe, mais qui va miser beaucoup sur Lance Armstrong. Et c'est le début de l'histoire. Il annonce son vrai retour à la compétition en 1998. Parallèlement, il lance une fondation.
Ah oui. Il y a ça aussi. Il lance une fondation qui s'appelle comment, Younes ?
Live Strong.
Exactement.
Live Strong. Merci Younes.
De rien.
Merci beaucoup.
Les petits bracelets jaunes.
Et à quoi
jaunes.
Elle sert cette fondation?
Eh ben, à collecter des sous-sous.
Oui, des sous-sous dans la peau poche, mais pour qui?
Des sous-sous pour qui? C'est pas Bernadette Chirac, là,
wesh. Mais non, c'est pas les pièces jaunes. C'est tout simplement une fondation à but non lucratif, et justement pour investir dans les soins pour les personnes qui sont malades du cancer.
Du cancer, exactement. Il y consacre beaucoup de temps et
beaucoup d'énergie. Beaucoup
et,
d'énergie.
Et force est de reconnaître que ça a aidé visiblement énormément de gens. D'ailleurs, plus dur sera la désillusion du coup par la suite. Mais beaucoup de gens se sont fait aider et ont vu en Lance Armstrong au départ... un exemple qui, à mon avis, a remonté le moral de beaucoup.
Ouais, ouais, le bouquin de Lance Armstrong est extraordinaire sur le sujet.
Mmh. Et côté cœur aussi, ça
vraiment,
va bien.
T'es motivé à commencer ta journée ensuite. Quoi.
Et alors, attends, on a un point côté cœur, c'est ça?
Il y a un point côté cœur, pardon, j'avais trop envie de le placer. Parce que c'est le seul moment où je suis un peu contente pour lui.
Non,
c'est
important.
Voilà. Et il rencontre Christine Richards et c'est l'amour fou. Ils ont 3 enfants, tout va bien. Il remonte la pente, elle lui fait des petits plats le soir, il reprend des couleurs, on est content.
Un petit cassoulet par-ci, décroque monsieur par-là, pas du tout, parce que Lance Armstrong, à mon avis, était un nazi de la nourriture et de la nutrition. Si, je crois que c'était vraiment
Je me rappelle quand il gagnait le Tour de France, on lui demandait quel était son plat préféré, il répondait toujours des pommes de terre en robe des champs.
Voilà. en robe de Didier Deschamps. Ouais.
ça me paraissait pas non
ou
plus
c'est
le truc
de terre
le plus
en robe
complexe.
Des champs.
Quoi. Mais revenons à l'US Postal.
L'US Postal. Alors, qui peut m'en dire un petit peu plus sur cette équipe?
Cette équipe, c'est la Poste américaine, comme le disait Thibaut, donc c'est beaucoup de moyens.
Donc il y a Olivier Besancenot déjà.
Exactement.
Qui s'appelle Oliver Besancenot.
Oliver.
En robe de chambre.
Et surtout, elle est dirigée par Johan Brunel, qui est le mentor, ou en tout cas qui va être vraiment le compagnon de route.
Mais lui, il n'a rien d'américain, il est belge.
Il est belge.
Un ancien coureur qui reprend l'équipe en 99.
Exactement. Et c'est devenu quasiment le meilleur ami de Lance Armstrong.
Ouais, et la collaboration va être immense. Il va être accompagné, Lance Armstrong, par des vrais fers de lance, Frankie Andreu et Georgine Capi, qui étaient
des
cyclistes.
Fers de lance, bien vu.
Ouais.
J'ai pas fait exprès, c'est ça le talent. C'est des coureurs avec qui il était déjà chez Motorola.
Ils sont pas de Roubaix, plutôt?
Oh la vache.
Wow. Le problème, c'est qu'on peut pas tout couper.
Là, il faut qu'on avance.
Il y a d'autres Américains, Tyler Hamilton, Kevin Livingstone, Jonathan Voters. Il y a aussi un Français, Pascal Déramé, dont on reparlera ensuite.
S'en fout un peu.
C'est une belle équipe.
Moi, j'avais reparlé de Pascal Déramé. C'est une belle équipe et tout est fait pour le capitaine Lance Armstrong, ça faut le souligner.
Oui.
Ce qui fait parce que pour gagner le Tour de France, il faut une équipe, il y a des choses à faire pour gagner le Tour de France.
C'est le projet Armstrong. Ouais.
Et d'ailleurs, moi je me demande comment on fait pour gagner un Tour de France, on va le voir tout de suite.
C'est la rubrique tactique.
Youmi, c'est pas Zizou.
C'est la rubrique tactique.
Petit bonhomme, là, c'est pas Zizou.
C'est la rubrique tactique.
Muscle ton jeu.
C'est la rubrique tactique.
Si tu muscles pas ton jeu, fais attention.
On remerciera Serge Gainsbourg.
Il est toujours dans nos cœurs. Hein. Il est toujours là malgré tout. Alors la rubrique tactique, Thibaut, tu vas nous en parler un peu plus de savoir comment on gagne un Tour de France.
Rebonjour à tous, chers apprentis cyclistes. Je vous entends piaffer devant vos transistors et je vais mettre fin à cet insoutenable suspense en vous donnant la recette ultime pour gagner le Tour.
Les rois de la pédale.
Prenez les notes. Younes, prends un saladier d'une capacité d'un litre 5.
Ok, c'est parti.
Verse-y du phénylacétone, 2 cuillères à café de formétamide, lichette de 4 méthyl, 5 phénylpyridine et un soupçon de diphénylisopropylamine.
C'est fait.
Mélange le tout, bois-le. Okay. Rends-toi à Copenhague pour le départ du Tour le 1er juillet prochain et tu as toutes les chances de l'emporter. Non, alors, blague à part, les ingrédients qu'on a cités là, c'était les ingrédients qui constituaient ce qu'on appelait le pot belge. Le pot belge, c'était un mélange d'amphétamines, d'antalgiques, d'héroïne et de cocaïne qui était utilisé par les coureurs au début des années 2000, au moment des grands scandales de dopage.
C'est un samedi soir classique pour Younes. Hein.
C'était le dopage du pauvre à côté de l'EPO, qu'on connaît bien, les patents podcast Omnisport. Trêve de plaisanterie, on va vous parler aujourd'hui de tactique de vrai sport. Le cyclisme, retenez une chose, c'est un sport collectif, absolument pas un sport individuel. Sans l'US Postal, Lance Armstrong, d'une part, ne serait jamais allé sur la Lune, je l'ai dit, n'aurait jamais reçu son courrier non plus. Mais en plus, il ne serait pas le Lance Armstrong aux 7 Tours de France. Parce que oui, il en a quand même gagné 7. Et la plupart des grands champions des 20 ou 30 dernières années n'auraient pas gagné non plus. Ils ont gagné parce qu'on construit autour.
Propagande !
Oui, je sais, mais j'étais obligé. Ils ont gagné parce qu'on construit autour d'eux ce qu'on appelle un 8 idéal, c'est-à-dire 8 coéquipiers. Ces coéquipiers, ils ont chacun leurs caractéristiques propres qui vont permettre d'épauler le leader étape après étape sur 3 semaines.
Des esclaves.
Alors, il y a des contre-exemples. Par exemple, Tadej Pogacar, celui qui a gagné le Tour de France cette année. On dit souvent de lui qu'il a qu'un seul défaut, c'est son équipe. Donc, preuve qu'il est vraiment très, très fort seul. Mais quand même, il a une équipe qui n'est pas si mal que ça. Pour le reste, une équipe pro, elle construit sa victoire au Tour de France souvent une année avant, ou en tout cas l'hiver précédent le Tour, en sélectionnant ses hommes. Et quand on a une équipe propice qui peut gagner le Tour de France, il y a un leader, c'est Lance Armstrong, pour le sujet qui nous intéresse, mais il y a ensuite ce qu'on appelle des lieutenants. Alors ces lieutenants, c'est des mecs qui vont être chargés de faire le sale boulot, ils vont être chargés de lancer le train. Donc le train, c'est quand vous êtes sur une étape par exemple de montagne, vous devez pédaler comme un malade et ensuite vous vous laissez déporter sur le côté, vous disparaissez comme une merde et vous finissez l'étape tout seul à une demi-heure du vainqueur.
Un peu comme des lièvres au marathon.
Exactement. Et donc il y a souvent un capitaine, le capitaine de route, c'est le faux numéro 2, c'est le mec qui pourrait prendre la suite si Lance Armstrong avait une défaillance, mais il n'en a pas de défaillance puisqu'il a son bon pot belge. Bref, ces mecs-là, ils sont méga importants. Et quand je vous parle de train, c'est vraiment la vraie définition qu'on donne aujourd'hui. Pourquoi c'est si important d'avoir un train? C'est parce que 90% de l'effort que vous produisez quand vous faites du cyclisme, il provient de la résistance à l'air. Et donc, si vous avez un mec devant vous qui pédale à votre place, bah, vous n'avez pas besoin de fournir beaucoup d'efforts. Voilà, en gros, le schéma type pour gagner. Ensuite, j'ai envie de vous prendre un exemple. Par exemple, vous avez repéré une étape, Lourdes-Otacam, une belle étape de montagne. Vous voulez la gagner, parce que nous, on est l'équipe gagnante. Alors, la veille de l'étape, il y a le directeur sportif, Younes,
ouais.
Il se présente à nous, il a fait sieste.
Avec son pot belge.
Il est dans son car et il vous dit, il faut protéger Chloé, notre leader.
Eh oui.
Chloé, elle veut gagner l'étape le lendemain.
Oui, je veux gagner.
Et là, ce qui se passe, en fait, c'est que pendant 160 bornes, nous, on va faire tout le boulot pour Chloé. On va chacun se livrer entièrement. Donc Olivier va mener le train au tout début de l'étape de montagne parce que c'est le plus nul en montagne.
Moi, franchement, sur 100 mètres, je suis parfait.
Ensuite, mes deux acolytes vont prendre la suite, puis se déporter. Puis moi, je vais finir et Chloé, il lui reste juste à faire la fin du boulot, le feu d'artifice, les 5-6 derniers kilomètres avec les leaders de chaque équipe.
Pour la photo, les bras en l'air.
Pour la photo.
Les bisous et le maillot jaune. Oui,
exactement.
Et oui.
Et la petite peluche.
Et à l'époque de l'US Postal, notre cher Pascal Déramé.
Oui, on en reparle en fait.
Il y avait 100, finalement.
Lui, il disait que chacun avait des objectifs très clairs. Lui, donc, il menait le train, ensuite il y avait le deuxième, le troisième, chacun avait son rôle comme dans un ballet. Et lui, comme il était le plus nul en montagne, il commençait en premier, évidemment. Et à l'époque d'Armstrong, on avait un train qui était méga solide. On avait des mecs comme Roberto Heras, qui étaient des types qui auraient pu être leaders dans n'importe quelle équipe. Bah, ils étaient juste des numéro 2 ou des numéro 3 de Lance Armstrong. C'est pour ça qu'ils gagnaient autant.
Mais quand même, faire partie de l'équipe qui est potentiellement la gagnante, ouais, ça donne envie. Quoi.
Bah, ça donne envie. Et t'as des gars aujourd'hui, genre Jansson, qui est un mec qui était un lieutenant Thibaut Pinot, qui raconte qu'aujourd'hui, les gars, la Sky, l'équipe un peu géniale, ils sont là avec les yeux rivés sur leur capteur de puissance et ils disent... ce capteur de puissance, ça me permet de dire exactement le moment où je vais devoir m'arrêter, me déporter et faire autre chose. En fait, le cyclisme, c'est devenu tellement tactique. Il y a tellement de capteurs qui font que on n'est plus dans la petite beauté des années 30, 40, 50, 60 où on était là tranquillement à s'arrêter pour pisser, prendre un verre de vin. C'est fini ça. Aujourd'hui, le sport, il est technologique, il est tactique, on a des oreillettes et c'est comme ça qu'on gagne un Tour de France.
On est sur des Formule 1, c'est comme le paddock qui décide de...
Pour être totalement vrai, c'est pas nouveau ces histoires de tactique de train Faustocopi dans les années 50, Eddy Merckx dans les années 70. Ça existait, ils avaient des grosses équipes qui les protégeaient. C'est juste qu'aujourd'hui, ces équipes sont devenues de plus en plus fortes et le cyclisme est devenu de plus en plus tactique parce que tout simplement, il y a de l'argent dans le cyclisme aujourd'hui. Il y a une équipe qui peut mettre jusqu'à 20 millions sur la table, donc ce qu'elle veut, c'est la gagne, pas le spectacle. Et avec la professionnalisation de ce sport, forcément, il y a un peu moins de poésie, il y a un peu moins de baroque et on est obligé de répéter un scénario qu'on va jouer en jour J pour gagner. Et on peut peut-être terminer sur le profil type d'un cycliste gagnant du Tour de France à l'époque, c'était un mec qui gagnait en montagne, qui était un super gars en montagne. Aujourd'hui, c'est un mec à qui on demande de gagner des étapes de montagne.
Et la spéciale.
D'être un super rouleur, ouais. De gagner des contre-la-montre ou de pas perdre trop de temps dans les contre-la-montre, parce que les Tours de France sont tellement cadenassés en montagne que ça se joue plus trop en montagne, ça peut se perdre en montagne, mais ça se gagne sur des contre-la-montre, c'est-à-dire des courses seules,
c'est ça.
Où on joue contre le chrono.
Et souvent, quand le contre-la-montre est placé course numéro 1, voire numéro 2, bah, le Tour de France est déjà plié.
Est un peu plié.
Ouais.
C'est, voilà. Et donc, quand on en arrive à la fin du tour, Chloé gagne son Tour de France.
J'ai gagné.
Elle a gagné.
Bravo.
Elle
Bravo,
gagne
Chloé.
L'équivalent de 500 000 euros à peu près. C'est ce qu'a gagné Pogacar cette année. Et donc, dans la tradition de ce sport qui est un sport collectif, notamment, elle partage beaucoup les primes avec les autres. Mmh. Merci non. Chloé et vive le
ça
tour.
Veut dire que
elle
veut pas. Lance Samsung n'a pas toutes les peluches. Parce qu'on se demande où sont passées toutes les peluches.
Ah,
de
si,
Lance.
Je pense qu'il a bien voulu partager l'argent, mais la peluche, il la garde.
D'accord. Ah non, ça. C'est une histoire de gros sous, finalement. Tactique.
Comme beaucoup de sports.
Eh oui. Bien, merci pour cette rubrique. C'était très clair. Encore une fois, bravo les amis. Vous êtes de francs, de super lieutenants.
Vous savez alors, maintenant faire un pot belge.
Eh oui,
on
filera la recette sur les réseaux sociaux. Et oui. Alors, nous sommes en 99. Le Tour est ébranlé par une affaire qui a lieu l'année précédente en 98. C'est l'affaire Festina. On ne va pas y revenir. Vous aviez qu'à écouter notre épisode.
Excellent.
Mais grosso modo, pour faire court, on a vu un médecin, un soigneur. L'équipe Festina qui avait plein de choses dans son coffre, on l'a viré d'autres équipes, tout le monde était dopé,
la gendarmerie s'en est mêlée,
absolument voilà. Horrible, et Virenc a eu sa marionnette au guignol. Le Tour de France 99 donc est le tour de la rédemption lol, et un tour marqué par l'absence des favoris dans ce contexte. On peut dire que Lens est lui-même favori, il n'y a pas Pantani,
puisque Pantani est out, Riz est out, Ulrich il est absent.
Ouais, les grands favoris sont pas là, donc c'est vrai que lui se dégage. Et
comment ça se passe alors ce Tour 99?
Bah là, il va pouvoir faire briller les États-Unis. Il vient avec son équipe et il dit This is America. Et puis il s'arrête pas de pédaler.
Ça veut dire quand il plante chaque drapeau américain sur chaque col, mais bon.
Mais surtout que c'est un sport qui est très très européen. Du coup, c'est un peu
tout à fait.
Eux, c'est vraiment le moment, je pense, où le cyclisme devient un petit peu populaire aux États-Unis.
Oui.
Le mec, il sort d'une chimio. Non seulement il reprend dans une équipe, mais il est comme favori. Enfin, ça part super bien.
Comme beaucoup d'Américains, quand ils sont sur un sport qui n'est pas un sport dédié USA, comme on les connaît tous, le baseball, le basket, etc.
Et voilà, c'est encore les colons sauveurs.
Et bien, ils se représentent un peu comme des ambassadeurs, entre guillemets, du drapeau avant même, ne serait-ce que d'être des sportifs. Et donc, effectivement, quelques temps plus tôt, au Dauphiné, ils font une forte impression et tout le monde les voit comme des favoris.
Et qu'est-ce qui se passe alors, Thomas, sur ce Tour 99?
Sur le Tour 99, ça commence au Puy du Fou par un contre-la-montre et il gagne largement. Donc il commence avec le maillot jaune, il prend la fameuse petite peluche de lion et par la suite, il va y avoir un contre-la-montre lors de la 8e étape du côté de Metz ou de Metz ou de Metz.
Je crois que c'est Metz.
Alors on dira Metz.
Non.
Voilà.
Metz en Moselle.
On dira Marseille, du coup.
Merci. Donc ouais, là il éclate vraiment tout le monde et il continue lors de la 9e étape. Il arrive dans le charmant village de Sestrières et il aura 6 minutes d'avance. Il faut savoir que 6 minutes d'avance
c'est
sur un Tour de France, c'est beaucoup. Voilà, moi j'ai 6 minutes de retard pour aller au travail, c'est pas très grave, mais sur un Tour de France, c'est un petit peu plus embêtant.
Quasiment plié.
Ouais, c'est carrément plié, ouais. Et du coup, il finit le tour maillot jaune devant Alex Zouleux et Fernando Escartín.
Avec 7 minutes d'avance,
qui
est de nouveau beaucoup, rien par rapport à votre patron si vous êtes en retard à votre travail.
À noter que c'est le premier tour de l'histoire à terminer avec une vitesse moyenne de 40 km/h, ce qui c'est énorme.
C'est un petit scooter.
Quand je suis à vélo, parce que je fais beaucoup de vélo, quand je vois les trucs là qui te disent le nombre de kilomètres heure, je suis toujours à 20. Et encore, j'ai l'impression d'être à fond, donc je comprends pas. Et le mec fait ça dans la montagne. Ok, très bien.
C'est parce que t'es face au vent.
C'est ça. Et oui, c'est comme tu dis, j'ai le pot belge.
Et si t'avais Younes devant toi, Chloé et Thibaut, ça irait beaucoup plus vite.
Et donc le voilà. Alors c'est incroyable.
Il succède à Greg LeMond, l'autre légende américaine.
Tout à fait. Et le pays, les États-Unis sont en liesse. Ils s'intéressent au cyclisme. Waouh, on a un champion. Et en plus, toute la symbolique adore les Américains sur le fait qu'il était en rémission, qu'il a vaincu le cancer et que maintenant c'est devenu un grand champion. Sa célébrité est tout de suite au panthéon des plus grands sportifs.
En tout cas, ce pays qui a l'habitude de raconter des mythologies modernes, là il en a une toute faite.
C'est leur Jésus ressuscité.
Exactement.
Et le truc, c'est qu'il va pas s'arrêter là, le Lance, parce qu'il gagne en 99 et on va revenir un petit peu très rapidement sur les 6 autres tours,
oui.
À commencé par 2000. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait quelle place en 2000?
Il va régner sans partage.
Ouais, et en 2000, voilà. C'est l'année du début de la vraie rivalité avec Yann Ulrich, qui était son dauphin naturel. Bon, il va quand même finir par l'exploser, hein, pour faire vite. Il finit le Tour de France avec une avance extrêmement conséquente.
C'est encore pire parce qu'il finit le Tour de France avec, je sais plus, son avance. Mais c'est pareil, c'est 6 minutes, je crois. Non, c'est 6 minutes. Celui-là, il est de 6 minutes.
Ça reste des écarts quand même très importants. Alors, normalement, alors entre 2 et 3 minutes, c'est déjà correct.
Ouais, mais alors qu'il y a Armstrong, il y a Pantani, il y a Bellocchi, il y a quand même un énorme plateau.
Qui sont des mecs chargés comme des bœufs, contrairement à lui.
Faut revenir un tout petit peu sur Yann Ulrich, qui est on rappelle, le cycliste préféré de Thomas. Si on ne revient pas sur Yann Ulrich, Thomas quitte EPO, donc c'est très important.
Non, on veut que Thomas reste, donc il fait partie de quelle équipe?
Alors, il fait partie de l'équipe d'Allemagne, puisqu'il est allemand, voilà. Et il jouait dans l'équipe donc de Franz Beckenbauer. Et blague à part, il est Deutsche Telekom, puisque c'est Deutsche qui veut, je suppose, dire Télécom allemand,
un peu comme l'équivalent de France. Alors,
ensuite devenu la T-Mobile.
Ce n'est pas du tout le Télécom de Laurent Deutsch. Hein. Confondre.
Là, on est vraiment sur la Coupe du Monde des facteurs avec Deutsche Telekom versus US Postal.
Exactement.
Mais Laurent Deutsch, qui va commenter la prochaine étape du Tour de France l'année prochaine, il va tout lancer.
Oui.
Ah bon?
Non.
J'ai cru.
C'est complètement crédible, en tout cas.
En tout cas, Ulrich, c'est quelqu'un qui a gagné le Tour de France en 97 et il avait mis 9 minutes d'avance, ce qui est donc énorme, à Richard Virenque. C'était à l'époque où il n'y avait pas eu encore l'affaire. Il en avait mis 14 minutes d'avance à Pantani. Et il est deuxième en 96 et 98. Et il faut savoir qu'il gagne le Tour d'Espagne en 99 et qu'il est champion olympique sur route en 2000. Voilà. Et il avait un style assez particulier aussi. Alors ça, j'ai pas de référence.
Il était en redingote.
Il avait une petite canne dans la main droite et des petits gants. Non, c'était... je trouvais qu'il avait une attitude. Je sais pas si ça vous parle. Il avait une tronche extraordinaire, c'est-à-dire qu'il avait tout le temps l'impression on a l'impression qu'il est tout le temps épuisé. Puis je revois sa position de danseuse.
Exactement.
Alors, être danseuse, c'est quand on est debout. Et ça m'a marqué. C'est ce que je me rappelle, que je jouais à ça nous quand on était plus jeunes. J'imitais Yann Ulrich, on se mettait vraiment la même ganache, tête en avant, fesses vers le haut et vers l'arrière. Et ça, enfin, j'ai le souvenir de cette
expression
qui était
très parlante.
Et c'est vrai que l'impression sur le vélo est pas du tout la même. T'as raison. En fait, Ulrich, c'est comme si chez vous mettiez une vitesse très haute. Vous avez beaucoup de mal à pédaler, vous devez être en danseuse, mais du coup le vélo arrive à pédaler. Alors qu'Armstrong, il reste toujours collé à sa selle, il met une toute petite vitesse et il mouline comme un malade. Et donc ça donne deux impressions visuelles extrêmement différentes.
Ulrich, le rapport Ulrich-Armstrong est intéressant. C'est pour ça que c'est intéressant d'en parler, Thomas. C'est qu'il y avait plutôt du respect entre eux.
Alors il y a beaucoup de respect. Il y a plein, je crois qu'on y revient plus tard, mais il y a au moins deux moments. Alors sauf dans le contre-la-montre, mais quand ils sont dans les étapes communes, il y a deux fois dans les deux cas de figure l'un des deux qui se casse la binette. Sur son vélo, et l'autre l'attend par fair play. Et puis c'est aussi, il y a Armstrong qui dira clairement que la personne qui l'a poussé à s'entraîner autant, qui lui faisait le plus peur, c'était Ulrich. Il faut savoir qu'aujourd'hui
c'est un peu son Federer pour Nadal, ou Nadal pour Federer.
Non, c'est comme moi, ce qui me fait avancer dans la vie aujourd'hui, c'est la haine que j'ai contre Materazzi. C'est pareil, voilà. C'est
mais oui, 15 ans déjà, voilà.
D'ailleurs Materazzi aussi le dit, hein, la haine qui le fait avancer dans son,
c'est contre moi,
c'est contre toi.
Non,
ouais,
c'est contre Materazzi. C'est contre Materazzi.
C'est contre lui-même.
Non, aujourd'hui ils sont amis. C'est important de le dire, parce qu'il a,
oui,
Yann Ulrich, il a traversé des moments un petit peu difficiles. Ouais. Un peu
plus
tard.
Alors, on peut le dire.
Je suis désolé je l'ai appris aujourd'hui en même temps que je le dis. Il était dopé. Voilà.
Il y a un truc aussi. C'est d'autant plus incroyable que Lance Armstrong, on en verra quand on parlera un petit peu du dark Lance Armstrong. C'est que il le respectait, alors qu'il ne respectait aucun de ses rivaux, et que il chiait sur la gueule de ses rivaux tout le temps. Donc
parce
le respect qu'avait Armstrong pour Ulrich est d'autant plus significatif.
Mais même parfois sur ses entraîneurs, il leur chiait dessus.
En tout cas, Ulrich finit pas très bien. Il faut savoir qu'il sort de...
Vous n'emporterez pas votre haine au paradis.
Donc Ulrich sort de l'hôpital psychiatrique. Lance Armstrong vient lui rendre visite. Ils mangent des merguez ensemble.
Plus tard,
ils boivent des bières. Aujourd'hui, ensemble, tout va bien. Ils se soutiennent l'un et l'autre en disant « T'étais un champion, moi aussi. » Voilà.
Bon,
c'est la nouvelle amitié.
Ils vivent dans leur petit monde. Et donc tout va bien pour eux. Magnifique.
Alors, ensuite, on passe au Tour de France d'après. Le 2001. Oui, bah, pareil, c'est toujours la même chose.
Qui a gagné ?
Il écrase tout le monde. C'est Lance Armstrong. Il finit à presque 7 minutes d'avance sur son rival.
Sur ce Tour de France 2001, c'est là où il y a le fameux look, the look. C'est-à-dire que dans la mythique étape de l'Alpe d'Huez, Armstrong lâche justement Ulrich en le regardant dans les yeux bien avant de lui mettre une trace jusqu'à la ligne d'arrivée. Quand je dis une trace, il n'a pas fait pour le coup caca sur lui. C'est juste qu'il a.
Il regarde et lui dit chah en même temps.
C'est voilà. Donc troisième tour pour Lance Armstrong à ce moment-là.
C'est une star
incroyable. On l'interview pour savoir, pour connaître un petit peu plus.
Oui, alors vous vous projetez déjà dans l'avenir. En tout cas, la terrible maladie que vous avez affrontée il y a quelques années vous a aguerri, a renforcé votre caractère, vous a rendu plus fort.
Oui, c'est sûr, la maladie, c'est la plus bonne chose pour moi, pour ma vie, pour le cyclisme, pour la mentalité de mon vie maintenant. C'est un grand avantage.
Alors pendant ce tour, Lance Armstrong, vous avez eu l'occasion de vous exprimer sur le dopage. On est, selon vous, définitivement sorti de cette période de doute que le cyclisme a traversé ces dernières années.
Lol.
Oui, mais cette année, c'est regarder les facts, regarder le contrôle anti-dopage, le contrôle de hippo. C'est seulement un positif. C'est le sport essayé beaucoup, beaucoup pour le contrôle de dopage.
Eddy Merckx, qui s'y connaît en maillot jaune, vous verrez bien gagner encore 2, 3 ou 4 fois le Tour de France. Après tout, vous n'avez que 29 ans. Comment voyez-vous l'avenir ?
Non, la première chose, c'est l'an prochain, le quatrième tour. Après,
on ne sait pas. En tout cas,
elle est pas mal cette interview de Novak Djokovic.
Oui. on comprend rien. Il pourrait s'appliquer un petit peu. Merde. Du coup, troisième tour. Puis paf, allez, pas de suspense. Tour de France 2002. Quatrième tour. À noter que dans le Tour de France 2002, il est rejoint par un coéquipier, un nouveau lieutenant, qui s'appelle Floy Landis. S'il vous plaît, amis auditeurs, retenez bien ce nom. Tour de France 2003. C'est le Tour du Centenaire. Bravo, le Tour du Centenaire. On applaudit.
Ouais. Il y a plein des animations. Alors, et on va faire quelques parties sur les animes.
J'ai assisté au premier départ à Montgeron. Voilà.
Très bien.
Montgeron, c'est situé entre Brunois, collé à Hyères et pendant de Villeneuve-Saint-Georges.
Quand on vous dit que Younes et Thomas ont des anecdotes sensationnelles.
Le départ est plus proche de Villeneuve-Saint-Georges que de Montgeron-Crône.
Alors on peut s'attarder un tout petit peu sur ce tour qui est quand même un peu plus intéressant que les autres. Armstrong va moins l'écraser. Il y a un beau plateau. Il y a Iban Mayo, le copain de Robert Ketchup, qui est là. Il y a Vinokourov, le Kazakh, qui est le coéquipier d'Ulrich. Je ne savais pas qu'il était coéquipier d'Ulrich à l'époque à la Dutch Telecom, qui est, à mon avis, la T-Mobile. Je ne sais plus si c'est.
Voilà. Et il y a notre ami, je ne sais pas, Beloki.
Qui, déjà en 2002, avait donné du fil à retordre à Lens.
Oui, tout à fait. L'année d'avant. Tout à fait. Et ça va être un tour un peu plus compliqué pour Armstrong, qui prend le maillot jaune lors de la 8e étape
seulement
à l'Alpe d'Huez. Ouais, c'est ça.
Vrai,
ouais, seulement. Maintenant, on est habitué à ce qu'il prenne la 2e et qu'il ne le lâche plus et qui est pressé par deux hommes.
On finissait par regarder le tour pour le paysage.
Oui, pour les châteaux. Alors, le magnifique château du 14e siècle.
Laurent Deutsch, mais c'est toi.
Non, c'est l'an prochain, ça, Chloé.
Et il va se passer un truc, ce tour, comme tu l'as dit dans tes notes, toi, ça va être un peu le tour des chutes. On va voir qu'il y en aura beaucoup, notamment le 14 juillet. Beloki, qui est au coude à coude au classement avec Armstrong, va tenter le tour, le tout pour le tout, dans l'étape Le Bourdoisan Gap. Mais voilà ce qu'il va se passer.
Chute de Beloki juste devant Armstrong. Armstrong qui est parti dans le terrain. Maillot Zubeldia aussi arrêté. Il s'est fait mal. Yoseba Beloki. Armstrong qui part sur une image insensée. Armstrong toujours sur son vélo comme un cyclocrossman. Il est passé de l'autre côté. Il a traversé la route. Il repart. C'est de la folie. Il se jette sur son vélo à nouveau. Des images absolument insensées. Ulrich se retourne. Beloki a chuté assez violemment dans le goudron sur cette route avec le goudron qui fondait. On venait d'en parler un instant. On va le revoir juste devant Armstrong. Beloki. Il essaye de se redresser. Rien à faire. Yoseba Beloki par terre au bord de la route et Armstrong qui repasse dans le terrain, une image insensée. et toute la volonté du champion américain qui ne veut vraiment pas laisser filer son maillot jaune.
Elle est incroyable cette image, Chloé. Qu'est-ce qui se passe en fait?
C'est complètement dingue.
Elle est tombée. Elle est tombée par terre.
Et elle est tombée par terre. Et donc là, non mais attends, du coup, on a demandé à Bellocchi qu'est-ce qui se passe. Il dit yo, c'est bas. Voilà, c'était juste pas blague. Et Armstrong le contourne, c'est ça?
Mais en fait, c'est ça. Il y a une sorte de lacet comme il y en a beaucoup en montagne. Et lui, il fait un tout droit pour ne pas avoir à tomber, justement. Oui. Et là, on se dit qu'il est vraiment béni des dieux parce qu'il se blesse pas.
C'est
il
incroyable.
Tombe pas.
C'est un film d'action à ce moment-là.
Armstrong ne se fait pas mal, mais il faut savoir quand même. Malheureusement pour Bellocchi, lui, il se fait un truc assez sale.
Ah ouais,
il s'éclate les côtes ou un truc assez sale.
Du coup, il est obligé de
lui, il abandonne.
D'abandonner. Il ne reste plus que Ulrich pour inquiéter clairement Lance Armstrong. Lance Armstrong qui, lors de la 15e étape, va chuter aussi. C'est vraiment le tour des chutes.
Chute à l'arrière.
Qui va chuter. Je crois qu'il va percuter quelqu'un ou voilà un spectateur.
Un agent antidopage.
Et comme tu l'as dit, Thomas, quand on a parlé d'Ulrich, Ulrich va l'attendre. Et ça c'est quand même un geste assez noble et qui va avoir des conséquences parce que du coup ils sont toujours au coude à coude au classement. On arrive au contre la montre, je ne sais plus, à Bouguenais, en tout cas Pornic-Nantes, en étape. Les deux sont coude à coude. Ulrich peut rattraper Armstrong sur ce contre la montre. Et voilà encore ce qui va se passer.
Oh là, une chute, chute 2, Yann Ulrich là ! Chute d'Ulrich ! Il est tombé, Yann Ulrich, ici, dans ce rond-point. Oh là là là, on va revoir maintenant. Yann Ulrich a chuté dans ce rond-point, on s'y attendait un peu. Oh, il a complètement dérapé.
C'est le rond-point où est tombé Uwe Peschel ce matin. Exactement le même endroit.
Laurent,
ça glisse beaucoup à l'intérieur.
Laurent.
Il est arrivé prudemment pourtant sur ce rond-point, Ulrich. Il a pris le virage à la corde comme il fallait le prendre. Il a glissé de l'avant. C'est justement la partie la plus compliquée, ces 10 derniers kilomètres. Il a perdu le moral, bien sûr, on le comprend. Et son directeur sportif de suite.
Et voilà, il s'est fait mal au genou le Ulrich, et pas que, et surtout il laisse la victoire à qui?
À Lance Armstrong. Et il faut savoir, ouais, cette chute, elle est vraiment. Donc ça, c'est un truc dont personnellement je me souviens parce que pour l'avoir vu, et c'est vrai que c'est assez marquant dans le sens où plus il perd tout sur cette chute là, et ça fait vraiment de la peine parce que derrière, quand il remonte sur le vélo, il est comme histoire vraie, une dame que j'ai vue qui est tombée à l'arrêt au feu rouge. Voilà, elle est tombée à l'arrêt quand elle est repartie, elle était toute tremblante. Beaucoup, parce que c'est la mode maintenant à Paris, le vélo, et il y a plein de gens qui commencent le vélo qui devraient arrêter le vélo d'ailleurs parce qu'ils sont très dangereux, parce qu'ils sont
le vélo va les arrêter,
voilà, je pense que voilà. Mais là on le voit vraiment en galère sur un vélo comme un enfant à qui on vient d'enlever les roulettes, et c'est vrai que c'est des images qui sont assez tristes.
T'étais sur le rond-point à l'époque, toi?
J'étais sur le rond-point, c'est moi qui ai jeté de l'huile, je visais et j'ai confondu les deux, malheureusement.
Tu vidais la friteuse,
voilà. Exactement, voilà.
Alors si tu confonds les deux, indice, le maillot jaune souvent c'est celui qui est en jaune.
Ah oui,
voilà.
Très bien.
Ça peut, voilà. Donc finalement encore c'est quoi? On en est où? Je sais même plus. On est le cinquième, c'est ça?
Ouais, c'est déjà pas mal, c'est bien.
Bah ouais, c'est pas mal. Il égalise tout le monde. Il égalise Merckx, il égalise Hino, il égalise tout le monde.
Indurain
et l'autre, Anquetil.
C'est pas mal.
Donc bravo à lui pour ce qu'on croit.
Il rentre dans la légende.
Il rentre dans la légende. Et on arrive du coup en 2005. Il y a toujours une malédiction sur le sixième tour. C'est vrai, hein, personne. 2004, pardon, oui, tout à fait.
Oui.
Bravo Chloé. Il y a une nouvelle élection. Personne n'a jamais gagné un sixième tour.
Et non, personne. Et d'ailleurs, Lance non plus, il va tomber dès la première étape. C'est un prologue horrible.
Mais Jésus Armstrong va se relever.
Il se passe quelque chose 3 semaines avant.
Non, en fait, il
y a un petit événement.
Oui, alors 3 semaines avant le tour, Iban Mayo, dont on vous a parlé, bat Armstrong.
Le cousin de ketchup.
Au Dauphiné. Et le Dauphiné, c'est souvent une course un peu étalon. Comme les chevaux, qui vous permet de dire qui est en forme et qui ne l'est pas. Et donc, Iban Mayo, 3 semaines avant le tour, il est peut-être meilleur qu'Armstrong.
Mais en tout cas, c'est vraiment fort.
Et alors, spoiler?
Ouais, non, dès le début du tour, toujours la même chose. 6e étape, Mayo se fait éclater, Ulrich n'est plus à la hauteur ensuite, et Armstrong va tranquillement pouvoir gagner ce Tour de France avec des nouveaux rivaux comme Ivan Basso, comme Andreas Klöden, mais ça suffit pas, c'est des mecs qui sont pas encore.
Et beaucoup de sympathie pour nous, parce qu'on s'en souvient tous, surtout parce qu'il porte le même prénom que moi. Il y a l'ascension du jeune Thomas Vaucler. Et je me souviens encore de mon tonton qui lui a demandé, mais comment ça se fait que lui, il soit si fort et qu'il soit dernier? Il m'a dit, écoute-moi bien, le cyclisme, c'est très simple à cette époque. Tous les dopés ont une heure d'avance et le groupe éto, c'est tous ceux qui ne sont pas dopés. Voilà, c'est ce qu'on m'a expliqué. Et au début, je fais, mais non, on peut pas dire ça. Bon,
et bah, ouais, ça c'est faux peut-être.
J'ai peut-être des doutes, c'est peut-être vrai en fait.
Et alors ça est super, ouais. Ouh, sixième tour, super. Merci beaucoup Lance d'avoir tué tout le suspense du monde. Nous sommes cette fois-ci...
Et de nous avoir volé tant d'années.
Nous sommes cette fois-ci en 2005. Et en 2005, Lance Armstrong, avant de commencer le tour, il a une petite annonce à vous faire.
Sport, cyclisme, avec les adieux d'un grand champion, Lance Armstrong met fin à sa carrière. Décision annoncée hier soir, le coureur texan va tenter une 7e victoire dans le Tour de France avant d'arrêter la compétition. Julien Benedetto, Grégoire Tournant.
D'ordinaire, le modeste Tour de Géorgie ne déplace pas les foules. Mais hier à Augusta, Lance Armstrong avait quelque chose d'important à annoncer. Flanqué de son inséparable directeur sportif, l'Américain met fin au suspense, sans laisser transparaître aucune émotion, comme sur le vélo.
J'ai décidé de tout mettre sur le Tour et en même temps, j'ai décidé que le Tour de France serait ma dernière course en tant que cycliste professionnel.
Lance Armstrong, regard d'acier, fréquence de pédalage jamais vue jusque-là. Sur les routes du Tour, le Texan est imbattable. Les plus grands, Anquetil, Merckx, Hinault et Indurain, avaient épuisé leur braquet dans la quête d'une 6e victoire à Paris. Le Graal sera pour l'Américain.
Eh oui,
le Graal sera pour l'Américain.
Ce 7e tour, c'est un tour qu'il domine une fois de plus.
Mais là, c'est incroyable, c'est encore plus que d'habitude, non? Oui.
En fait, il le maîtrise totalement.
Ça commence à se voir, non?
Bah, on a presque l'impression que les autres sont résignés.
Oui.
Bah ouais, et commence à avoir des bruits de couloir aussi. Hein,
c'est le tour le plus rapide, je sais pas si depuis les auditeurs nous le diront, c'est le tour le plus rapide de l'histoire à ce moment-là. 41,6 km/h de moyenne pour tout le monde, ce qui est quand même.
De moyenne, c'est quand même fou. Hein. Je suis en électrique et je suis à 25 de moyenne.
Oui, c'est voilà, ça. C'est ça, que dire de plus. Il gagne ce 7e tour et il prend sa retraite, une retraite bien méritée. Certains diront, il va profiter de sa célébrité, il va devenir pote avec Matthew McConaughey, il va sortir avec Kate Hudson, avec Sheryl Crow, tout va bien pour lui.
Ouais. Tout va bien, moi j'avais son petit bracelet jaune, Livestrong,
bien sûr,
comme beaucoup d'enfants.
Oui,
voilà. Ouais. Et non, ce petit bracelet, en fait, ils avaient fait un petit coup. Il faut savoir que ça, c'était une bonne action, puisqu'il y avait 1 euro, donc c'est peut-être un dollar, je crois, aux États-Unis, ils utilisaient le dollar. Donc 1 dollar, je sais pas s'il faut faire la conversion ou pas. Mais le fait est que voilà, il y a une unité qui est donc donnée, ensuite reversée totalement dans son association. Il voulait en vendre 5 millions. Ça a dépassé les 20 millions. C'est plutôt une opération réussie.
Oui, bravo, Lance.
C'est une star. Et aux États-Unis, ils disent même tellement c'est une star. Bon, maintenant, vous pouvez arrêter de regarder le vélo. Hein. Ouais. Alors que non, parce que c'est un Américain, un autre Américain qui va gagner le Tour de France en 2006, qui sera Floyd Landis. On en reparlera. Ancien coéquipier d'Armstrong. Armstrong, il va quand même faire une retentative de. Oui, il va revenir.
Une sorte de comeback.
Voilà. Là, il se dit, il s'ennuie un petit peu.
C'est la mode chez les grands athlètes. On a eu Jordan qui avait fait un petit break et puis qui est revenu. On a eu Zidane surtout.
Thuram et Makelele, ne les oublions pas. C'était les
Florent Manodou.
Et en artiste, on a Hayao Miyazaki qui tous les ans déclare sa retraite et qui revient à chaque fois l'année d'après.
Booba
avec
aussi. Booba refait des chansons.
Il y a Plus Belle la Vie qui reviennent tous les ans aussi.
Oui, NTN et Hayam aussi. À chaque fois, c'est la Derdéder et puis ils reviennent.
Voilà. Donc, il revient et qu'est-ce qu'il fait? Donc, il va faire le tour.
Alors il va faire le tour. Il faut savoir qu'il regarde, c'est en 2008, il y a Sastre qui gagne, et ça il le dit, c'est pas moi qui l'invente, il dit mais comment lui il gagne? Ah non, mais attends, mais s'il gagne, moi j'y vais.
Je reviens.
J'y vais, finger in the nose.
C'est vrai que Carlos Sastre c'était un peu une merde, on se dirait.
Non mais dis donc,
tu parles alors que Lance c'est un champion.
Tu parles trop.
Non mais ça va pas, ce sera complètement.
Quelle vulgarité. Je vais
pas accepter ça. Non mais c'est vrai qu'il est complètement puant, Armstrong, de dire ça. Ouais, si Sastre y arrive, je vais y retourner, moi, c'est pas grave.
Si c'est lui qui gagne.
Et du coup, il revient dans l'équipe Astana. Alors, il paraît qu'il est avantagé par l'UCI parce que pour revenir, il faut 6 mois de compétition il faut 6 mois pour ensuite faire des grandes compétitions. Et il n'aura besoin que de 4 mois pour refaire le Tour de France. Voilà.
Il a une condition physique incroyable.
Il est peut-être avantageux par l'UCI, on verra qu'en fait, oui. Qu'est-ce qui se passe dans son tour de retour?
Oui.
C'est en 2009, c'est ça?
Tout à fait. Il retrouve son coéquipier, Landis.
Floyd.
Floyd, ce bon Floyd, ouais. Où au final il arrêtera définitivement en 2012 pour aller faire des triathlons, des Ironman. C'est un retour qui n'est pas la meilleure chose qu'il ait faite dans sa vie.
Non, voilà.
Non, il finira troisième quand même en 2009 du Tour de France, ouais, mais... derrière Contador et Schleck, ce qui est quand même pas mal. Alors bah voilà, c'est très bien. Quel grand champion, Lance Armstrong. On l'aime beaucoup, c'est un grand gagnant. On va profiter de ça après et on en revient sur tous ses défauts peut-être.
Bonne
parce
soirée.
Qu'il en a un petit peu après une petite pause musicale. Voilà, c'était quoi ? Qu'est-ce qu'on a écouté, Thomas ?
On a écouté Dire Straits, Walk of Life.
Très bien.
J'ai eu 13 au bac en anglais. Mon niveau s'arrête là. Voilà, c'est ma référence. Pourquoi ? Parce que pour la petite histoire très brève, je l'écoute à vélo, ça me fait rire. Ça fait un bon rythme
ça
de pédalage.
Ça motive.
Mais c'est une très belle musique. On aime bien Dire Straits. On aime bien. C'est charmant.
Fleur, on adore.
Bien sûr.
Bah oui.
Alors, on a vu le lance gagnant. On a vu le lance triomphant. On a vu le lance célébrant ses victoires. Maintenant, on va le descendre. C'est parti.
C'est
alors,
parti.
On va parler un petit peu de la phase cachée de Lance Armstrong. Lance Armstrong, d'abord, avant de revenir sur ces histoires de dopage, il paraît qu'il en a eu deux ou trois. C'était aussi un personnage qui avait la gagne en lui et qui n'était pas forcément ultra sympathique, non ?
Non, la rage de vaincre, il écrasait un peu les autres, en fait. En fait, dès que c'était quelque chose qui lui faisait un peu d'ombre, enfin, une personne, quelqu'un dans l'entourage, une perspective un peu à gêner, entre guillemets, son avancée, eh ben, il se chargeait de l'éliminer d'une façon ou d'une autre.
Oui, c'est la base de la jalousie, ça, Younes.
Il n'est pas hyper adulé non plus, je trouve, sur les bords des routes. Il y a quand même beaucoup de gens qui l'insultent, qui lui crachent dessus, qui essaient de lui jeter des trucs.
Faut dire que...
Il n'est pas hyper aimé.
Il y a une phrase d'un de ses coéquipiers de l'US Postal qui dit Lance, un seul vrai ami, c'est George Washington, celui qui a imprimé sur le billet vert. Ça, je trouve ça génial. Parce
ça, c'est
que,
fou.
Bah ouais, non, mais.
Et ça vient de l'intérieur.
Y a vraiment cette rage de main qui est quand même qui est très belle, mais qui est quand même très, très considérée par rapport à l'argent qu'il peut gagner avec.
On précise, hein, c'est quelqu'un qui vient de l'intérieur qui dit cette phrase. Oui, oui. On ignore son identité. C'est dire que finalement, son entourage n'est pas forcément un entourage amical.
Mais non, mais surtout.
Plutôt des gens qui sont plutôt terrorisés et qui marchent au pas, quoi.
Oui, visiblement, Armstrong terrorise complètement le peloton.
Mais alors, dans le documentaire, il y a, j'ai oublié son nom, je suis désolée, mais un de ses anciens coéquipiers qui raconte un peu sa passion pour le sport, qui dit quand même ce sport, c'est un sport d'équipe et ça apprend vachement l'humilité et à baisser son ego. Et le journaliste en face dit « Et pour Lance ?» Et du coup, il se met à rigoler, il fait « Lance, c'est autre chose. »
Après, quand tu vois ces gens-là, tu prends, alors deuxième fois que je le cite, mais tu prends un mec comme, tu fais un parallèle avec le foot, un mec comme Zlatan, qui a un ego surdimensionné, qui est pourtant, qui est aussi un méchant avec les autres, qui terrorise ses camarades de vestiaire. Bon, il y a peut-être le dopage en moins, c'est un gros facteur. Il y a plein de gens qui le détestent, mais ça reste un sportif hyper respecté, etc. Et c'est ce qui permet aussi, tu vois, c'est là où pour commencer un peu à ouvrir les débats sur est-ce que c'est un vrai méchant ou pas, on peut être méchant. Tu vois, il y a des sports, je pense que si t'es gentil, oh bah non, passe-moi devant, bon, ça pose problème, quoi.
Les grands leaders, ils sont obligés d'imposer un peu leurs conditions souvent dans les équipes. Et t'as raison,
il y a quand même très peu de grands champions qui sont des personnes tendres. Je pense qu'il y a quand même une part de.
Je pense pas que Ibrahimovic terrorise en fait ses coéquipiers.
Il les tape quand même, il y a quelques vidéos où il tabasse tout le monde.
Il les bouscule un peu, mais en fait il le respecte énormément parce qu'en fait il leur demande une exigence, mais pas la même chose, alors que Lance Armstrong demande à ce qu'on s'efface devant lui.
Voilà, oui, c'est différent, il est aussi très bon sur le vélo.
C'est vrai.
Ah bah c'est bon, il peut leur casser la gueule alors.
Non mais il muselle complètement, il choisit qui fera les tours, qui fera les Giro, qui fera. Il y a un exemple qui est quand même frappant, c'est en 2004. On parlera de Michel Ferrari, son médecin en chef un peu plus tard,
médecin entre guillemets.
Oui. Et Filippo Simeoni, qui est un coureur, a été coupable, selon Lance, d'avoir craché sur Ferrari. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'en 2004, lors d'une échappée, Filippo Simeoni va essayer d'y aller. Et tout de suite, alors qu'il n'y a strictement rien à jouer pour Lance Armstrong, il va couper l'échappée de Simeoni, demander au peloton de revenir sur lui pour l'empêcher complètement de faire son échappée, d'avoir son moment de gloire. Et il y a ce geste terrible, pardon Thibaut, mais il y a ce geste terrible où quand il revient, quand donc Simeoni est dans le peloton, il peut plus rien faire. Lance Armstrong regarde la caméra et fait semblant de fermer la bouche comme une braguette.
Comme une braguette sur la bouche.
C'est des histoires de dominants, vous en avez dans tous les sports. Si Léo Messi veut pas un joueur en équipe nationale d'Argentine, mais on dit pas que c'est bien, on dit pas que c'est mieux ailleurs. C'est des anecdotes qui, rétrospectivement, quand on sait le personnage qu'il a été, son histoire avec le dopage, font passer pour un salaud, alors qu'à mon avis elles sont assez usuelles sur des mecs qui ont ultra dominé outrageusement leur sport.
Il y a autre chose que l'on peut dire aussi sur Lance, c'est qu'il sait absolument comment s'y faire et qu'il a beaucoup de relations. On lui dit des accointances avec Hein Verbruggen, qui est quand même à ce moment-là le patron de l'UCI jusqu'en 2005. Il connaît un petit peu pas mal de candidats, McCain et compagnie à la présidence, etc. Donc tout va bien pour lui. Donc c'est Lance. Il y a le côté Live Strong, mine de rien, ça son association qui pour le coup là, ça marche et il y a beaucoup de cancers.
Ça marche et pour le coup il y a pas de dans toutes les choses qui vont se passer derrière. Il faut quand même insister là-dessus parce que c'est vrai qu'on va avoir tendance à un petit peu le déglinguer. Sur Live Strong, il y a
rien qui est sorti de négatif. Lui, il s'en est fait virer parce que bon, en tant que représentant, c'est vraiment pas c'est pas classe d'avoir un représentant comme Lance Armstrong. Mais il n'y a pas eu, en tout cas, il n'y a rien qui est sorti pour l'instant de fonds détournés ou autre chose. Et il a quand même beaucoup œuvré pour cet assaut et cette cause. Et c'est peut-être voilà, c'est là aussi où c'est paradoxal pour moi, parce que peut-être qu'en tant que sportif, c'est une petite merde, mais en tant que être humain. Au-delà du sport, dans ce combat-là.
Mais c'est la complexité de l'être humain.
Il arrive à me toucher. C'est pour ça que je suis un peu entre les deux. Je l'admets que parfois, Thibaut, j'ai envie de te tenir la main et qu'on aille chanter ensemble.
Mais allons danser sur
la gloire, à la gloire de Lens.
Il pleut pas. Non, mais bien sûr, ouais, sur Livestrong, tout simplement, parce que je pense que c'est un combat qu'il a mené, et même si certains peuvent penser que c'est le plus grand des salauds, ce combat il l'a mené, et si vraiment on allait nous dire qu'ensuite il a extorqué l'argent du cancer, là on serait sur un sacré perso.
Alors il va changer de notre idée de départ.
Alors... il a pris de l'argent dans l'US Postal par exemple, qui était son sponsor.
Mais en fait non, c'est juste qu'il a accepté ça on n'est pas trop sûr. Alors ouais. on va parler de il paraît que il s'est un petit peu dopé, on va voir si c'est vrai ou pas. Depuis 99 quand même, on n'est pas il faut pas être crédule, c'est à un moment donné où tous les médias, certains médias, surtout en France, affirment que Lance Armstrong est dopé. Il y a beaucoup de rumeurs. On va commencer d'abord par un reportage. Enfin, ça va être soit l'équipe, soit le Monde, ou surtout un premier ouvrage de David Walsh, LA Confidential, qui va recueillir beaucoup de témoignages au fil des années. Et ça commence en 96 en fait.
Ouais. Très joli titre, LA Confidential. Ouais. D'ailleurs.
Ouais, cool. Très bon film. Ouais. Avec Russell Crowe.
Très bon livre.
Mais du coup, en pleine chimio, il aurait fait usage, ou en tout cas, il en aurait parlé devant des témoins, donc Frankie Andreu et sa femme Betty.
Ouais, ancien coéquipier Frankie Andreu.
Voilà, donc ils étaient présents dans sa chambre et il y a eu cette conversation et eux, les deux, ont juré sous serment avoir entendu tout ça. Est-ce que ça date seulement de 96, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est la première fois qu'on peut témoigner, avoir des soupçons à ce niveau-là.
Donc c'est la sortie de sa maladie. Effectivement.
Non, c'est pas.
Non, c'est pendant qu'il est
malade. Le mec, il est pas très bien du tout.
Et il dit encore aujourd'hui, c'est la seule chose où il avoue pas. Il dit ça, je ne sais pas si je l'ai dit parce que.
Ok, il était pas dans son état.
Je veux pas dire qu'il joue du fait d'être sous le cancer, mais bon, en ne voulant pas le dire, je l'ai quand même dit. Mais voilà, c'est en tout cas c'est ce qu'il laisse transparaître dans le.
D'accord, ok.
Le reportage.
On arrive ensuite en 99, c'est le premier Tour de France.
Ça, c'est rigolo.
Et il se passe quand même quelque chose d'assez incroyable.
Il est déclaré positif
à la Covid. Ah non, c'est faux. C'était pas encore la COVID.
C'est pas tout à fait ça.
Corticoïdes. Bon.
Et voilà.
Qui n'a pas pris des corticoïdes? Younes avait mal aux fesses avant l'épisode.
Première étape du Tour de France, le 4 juillet 1999. Il sera positif aux corticoïdes. Et voilà ce qu'il va trouver comme défense.
On parle maintenant de ce qui s'est passé hier, c'est-à-dire la publication dans le journal Le Monde, donc, d'informations concernant des traces de corticoïdes dans les analyses d'urine. Aujourd'hui, dans vos analyses d'urine, aujourd'hui, l'UCI, l'Union Cycliste Internationale, a publié un communiqué expliquant que vous avez utilisé une pommade afin de traiter une dermatite allergique. Donc, l'explication de cette information-là, en fait, c'est ça. C'est que vous avez utilisé une pommade, c'est ça, Lance ?
So that is, and,
C'est ça.
I think it is
c'est exactement ce que dit la déclaration. Vous avez cet article qui provoque toute cette polémique. C'est mauvais non seulement pour moi, mais aussi pour le Tour de France, le cyclisme. Alors qu'il ne s'agit pas de dopage, mais d'une simple crème pour la peau.
Donc, en gros, qu'est-ce qu'il dit, Thomas ?
Eh ben, il dit que ça lui gratte le derrière après avoir fait du vélo. Alors, faut savoir que la selle, quand on en fait souvent, c'est vrai que ça peut irriter.
Ah, maintenant, j'habite à Saint-Denis, donc je travaille tout le temps à Paris. Et Saint-Denis, Paris, je fais quand même 20 km par jour. Et là, je commence à le sentir en ce moment. Il fait froid.
Du coup,
et
tu t'es mis au PO.
Donc, les hémorroïdes, du coup, là,
commencez à me croire.
C'est pas terrible.
Alors, du coup, ma petite astuce pour ne pas utiliser de crème corticoïde. Quand on a des hémorroïdes, le baume du tigre,
ça chauffe très fort.
Non, pas du tout, c'est très rafraîchissant.
J'ai pas trop envie d'essayer, mais bon.
D'accord. Sinon, il y a le tigre, tout simplement. Mais alors ça, c'est.
Moi,
c'est
j'ai un peu peur que ça me mette le
non,
feu au
après,
cul.
Non, après, effectivement,
il faut savoir qu'il peut
avoir de l'eczéma et avoir besoin d'une crème au corticoïde. C'est plausible.
Suite à cette interview de Gérard Rolls, savoir qu'il va là, il a l'air tout gentillet pendant l'interview, puis derrière, il va l'attraper un jour dans un coin. Il va lui dire, toi, c'est la dernière fois que je viens sur ton plateau. Et
pendant 3 ans, il ne viendra plus jamais.
Et oui, il le menace, il le menace.
Parce qu'il a pas du tout aimé la question.
Et comme il a un poids important dans les médias, oui, effectivement.
Et voilà, donc faut savoir que c'est de derrière pendant 3 ans.
Mais c'est mal connaître Gérard. Qui n'avait rien à faire,
qui est quand même
vive le sport.
Alors là,
vive le sport.
Là pour l'instant il s'en sort, mais on apprend que plus tard en fait il a été protégé, Lens, à ce moment-là.
Visiblement l'UCI savait évidemment qu'il avait été déclaré positif, et l'UCI, allez, ça c'est le prochain cheval de guerre, ça ne se dit
de bataille,
pas, de bataille, oui. L'association antidopage, c'est de choper l'UCI qui visiblement, oui, on ne sait pas évidemment. On dit ça, on n'a pas de preuves, pas encore.
Pratique une certaine
nonchalance. Oui, ouais. Voilà.
Exactement. Et j'essaye de me mettre à votre bas niveau quelques secondes. et en effet, admettant qu'il était dopé, on dit toujours c'est le système le plus organisé de dopage et tout. Oui, c'est vrai.
C'est peut-être vrai.
S'il est dopé, en fait, s'il y a l'UCI derrière qui te protège, c'est quand même assez facile.
Et ben, donc ça veut dire que ça fait
tranquillement
de
dopé, en fait.
C'est parti du système. Donc voilà, c'est pour ça qu'on parle du système le plus organisé. C'est que même le système lui-même officiel et complice peut-être.
Et c'est qui le président de
Ein Verbruggen, tout à fait. Ils sont copains, ils font des barbecues ensemble. Autre témoignage viendra étayer l'enquête de David Walsh, c'est mais surtout celui d'Emma O'Reilly. Alors, qui veut me parler d'Emma? Parce que moi, je l'aime beaucoup.
Elle est masseuse.
Elle est irlandaise, masseuse.
Oui, masseuse, et elle fait partie de l'équipe. Et du coup, forcément, elle a des moments de privilège avec les sportifs qu'elle masse et qu'elle soigne, et il se confie parfois à elle, et là ce qu'elle dit de Lance Armstrong, il a une petite liste noire, un petit carnet noir, exactement, elle parle d'un petit carnet noir dans la tête.
Alors elle dit ça, mais elle dit d'autres choses, et surtout elle fait d'autres choses.
C'est le carnet noir, c'est vrai, vous savez que bon, quand on a une masseuse et des gens qui sont très proches de nous, c'est des gens qu'on voit très souvent. Exactement. Quand on est sportif de haut niveau, moi après ma carrière, je me souviens avoir croisé beaucoup de gens à la fin de l'été 98, c'est après le tour des Pays-Bas, O'Reilly, donc elle propose à Lens de l'amener à l'aéroport. Ils font le voyage dans une voiture aux couleurs de l'équipe, etc. Tout se passe bien, ils mettent un peu de musique. Et arrivé à l'aéroport, j'ai failli le faire,
aéroport de Nice.
Deux minutes d'arrêt.
Depuis tout à l'heure, je vois le paragraphe, je fais merde, il y a ce mot. Non, je voulais pas le tenter. Armstrong, il tend à Emma un sac noir et lui dit: regarde, Emma. J'ai oublié de me débarrasser de ce truc. Peux-tu le mettre à la poubelle?
Attends, excusez-moi. Est-ce qu'on n'aurait pas Lance Armstrong ici présent?
Voilà, alors le doublage, c'est.
Je déteste.
Je postule.
Voilà. I hate you.
Et dans le sac, il y aurait peut-être des petites seringues vides qu'Armstrong aurait utilisées pendant le tour des Pays-Bas. Et puis bon, il se dit, c'est peut-être pas cool qu'on me voit avec ça. Donc il demande à ce qu'on le jette. Sauf que Emma O'Reilly.
Qu'est-ce
Papa O'Reilly, oui, aussi. Il y en a plein d'autres. Voilà. Ryan O'Reilly de la série Oz. Elle sait ce qu'il y a dans le sac. Du coup, là, tant qu'on est copain-copine, ça passe. Le jour où je me retourne contre toi, par contre, mon petit coco, je sais ce qu'il y a à l'intérieur du sac.
Et oui, j'en ai une contre toi.
Voilà, et ça posera problème. À savoir que...
Je trouve qu'elle manque de professionnalisme, cette dame.
Ça, pour le coup, voilà, il y a ce qu'on appelle le secret médical. Ça c'est important.
Exactement, voilà. Hippocrate.
Oui.
Le serment d'Hippocrate. Bref, on va prendre.
Cette dame, elle va être au centre de toutes les
choses,
parce qu'elle voit, elle voit tout.
Elle voit tout, et on lui demande de prendre des trucs dans sa bagnole, d'amener des choses pour le sortir des Pyrénées, donc de franchir la frontière au risque de se faire pincer.
On y arrive. Moi, j'ai une théorie.
Ouais, ça va, vas-y, alors t'écoute.
Je pense qu'Emma O'Reilly se doper pour être plus en forme pour son métier, pour pratiquer son métier de masseuse. Et elle a tout foutu sur le dos de ce brave Lance Armstrong, déjà touché par le cancer.
Écoute, c'est crédible, je commence à y croire.
Mais en plus, il y a quelque chose de très malsain, parce qu'il va lui demander 3 ou 4 fois de faire ça, Brunel aussi là, et elle va le faire, parce que voilà, en étant à mon avis dans une charge mentale démente. Et il faut savoir que Armstrong, il lui fait des cadeaux. Il lui offre une Rolex, par exemple.
Une peluche du Tour de France.
Il ne lâchera jamais. C'est comme le Pin CFR3. Jamais tu lâches la peluche du Tour de France.
Lion est à moi.
Et du coup, on est dans un truc très malsain. Et d'ailleurs, bon, on verra s'il s'excuse ou pas Armstrong. A priori, oui. Mais malgré tout, il y a de quoi traumatiser une personne.
Il faut savoir que les peluches, Thomas, qu'à Lens, après 2-3 années chez Lens, des peluches, c'est des lions de 600 kilos complètement surdéveloppés.
Ça pousse.
Alors, en 2000, il y a encore autre chose. Une équipe de France 3 diffuse un reportage où l'on voit un membre de l'équipe US Postal qui jette des sacs poubelles contenant des seringues et des médicaments. Donc quand on voit ça, évidemment, on peut se poser des questions. Après, c'est peut-être des seringues.
Mais
juste
on
n'a
pas de preuves concrètes.
Mais
non,
mais ça, c'est ouais, il n'y a rien. Quoi, mais d'ailleurs quand le journal en 2005, le journal L'Équipe titre Le mensonge Armstrong et publie les résultats d'une enquête prouvant que Armstrong a été visiblement positif à l'EPO sur 6 étapes. Hein, parce qu'en général, quand on est positif, on se met de l'EPO sur 6 étapes les plus importantes.
Bien sûr.
Armstrong n'ira. Hein, et tout cela va finir comment? Va finir par un peu à ce moment-là, en 2005, s'endormir un peu, Thibaut. Oui.
Ouais, et là, c'est intéressant ce que tu racontes. En fait, c'est le rôle des médias français. T'as parlé du Monde, tu parles de France 3, là, tu parles de L'Équipe. Et à chaque fois, en fait, quand ça se rapproche d'Armstrong, il va toujours dire, là, il est face au fait accompli, donc un cas de dopage, mais il va mettre en cause le laboratoire de Châtenay-Malabry, les laboratoires français qui feraient mal le boulot. C'est assez intéressant.
Bien sûr.
Et les médias français,
leur manque
et L'Équipe
de professionnalisme
et
leur manque de rigueur. Ouais.
On toujours, je pense qu'il n'a pas tort. Et m'étant rendu à Châtenay-Malabry la semaine dernière.
Oui. Bah, t'as vu l'état du RER?
C'était dégueulasse.
Non, mais les Américains aussi, les médias américains, sauf certains sérieux, vont aussi renvoyer les Français dans leur 22. Où,
on est un peu jaloux finalement. Ouais. Il y a un peu de ça derrière.
Oui, oui, voilà, c'est de l'aigreur.
Les Français gagnent pas le tour depuis Milan. Et d'ailleurs, on le gagne toujours pas.
Après, le tour depuis Milan, je sais pas s'il a commencé à Milan.
Non, mais c'est triste parce qu'on le gagne plus depuis la fin des années 80.
Milan sans Remo, c'est pas pareil.
C'est notre bébé et finalement on a trouvé notre coupable. C'est un Américain, on n'aime pas trop l'Amérique, les États-Unis, tout ça. Donc
c'est de la jalousie.
Il faut savoir que vraiment, enfin, si vraiment on n'a pas compris qu'il était dopé, c'est quand même un petit peu difficile en Armstrong. Donc il y a tout ça. Il y a le fait que c'est pas un grand grimpeur et qu'il gagne absolument tout en mettant 27 milliards de minutes à tout le monde.
Et en plus, il s'entoure. Sur sa selle.
Son entourage n'est pas toujours très clean. Il s'entoure notamment d'un médecin. Est-ce qu'on peut l'appeler médecin?
Alors, Jacques Médecin.
Ah, le. Michel Ferrari. Alors lui, il faut savoir que
il est
connu pour une phrase assez sympathique. La phrase n'étant pas bonjour, je suis docteur, mais une phrase qui est l'EPO n'est pas dangereuse, c'est son abus qui l'est. Il est aussi dangereux de boire 10 litres de jus d'orange. Que oui. L'EPO.
En tout cas, rarement.
Alors d'ailleurs, n'essayez peut-être pas ça chez vous. Michael a essayé, il est plus dans ce podcast. Ouais. Donc,
mais rarement dans un épisode, on a autant parlé de notre podcast EPO, oui. À part peut-être l'affaire Festina.
Non, mais c'est vrai qu'on dirait presque un placement de produit.
Mais c'est pas les armes qui tuent, hein, c'est les gens qui tiennent les armes aussi. Enfin, c'est toujours une défense un peu à l'américaine. Ça,
oui,
hein, ça bouge pas.
Un petit peu.
Mais
oui.
Le docteur Ferrari, c'est vrai que dans le documentaire, quand on en parle, enfin les gens en tout cas qui en parlent disent. Alors, quand on va voir le docteur Ferrari, c'est pas simplement pour un programme d'entraînement. En général, c'est pour avoir aussi une petite liste de courses.
Oui.
Pour avoir
et c'est pas des concombres et des courgettes.
Non,
hein.
Non.
Ni
c'est
du jus d'orange.
Ouais,
moi-même, ce médecin qu'on a tous dans notre entourage, ouais. C'est lui qui te met en arrêt de maladie facilement.
C'est lui. Moi-même, là, je suis allé le voir avant l'émission. J'habite à 6 km, j'ai mis 2 minutes 30 pour venir hein, en courant. Hein. Donc, c'est bien.
En rampant. C'est vrai parce qu'il y a vraiment Sauron, il y a Voldemort et il y a Monsieur Ferrari. Le mec, il a été coffré pour tout. Abus de confiance, déclaration au fisc, je sais plus, blanchiment d'argent, dopage évidemment,
et le nom est génial. Des médecins, etc.
Mais il a tout pour rien lui, qui va quoi.
Le nom est génial, ça fait presque nom un peu raciste italien entre mélange de voitures de luxe et de trucs. C'est vraiment, tu l'appelais le docteur Tortellini ou Ferrari.
Association de malfaiteurs.
C'est vraiment un mauvais téléfilm de M6 quoi.
C'est donc le docteur EPO
en chef.
C'est donc notre docteur.
Alors certes il y a cette fréquentation, mais on n'a pas encore eu de vraiment de preuves complètement tangible,
irréfutable.
Et il y a deux hommes qui vont précipiter la chute de notre ami Armstrong. Ça va être Travis Tygart, dont on va parler juste après, et d'abord Floyd Landis, qui, bah oui, c'est un coureur, mais pourtant il précipite la chute de Lance Armstrong. Alors je comprends pas très bien.
Moi, j'ai par rapport à Floyd Landis, premier souvenir déjà, parce que pour avoir vu aussi ce tour-là, le fameux tour où il est, je me rappelle plus le nom de l'étape, mais où il doit gagner dans la montagne.
Je vois très bien.
Et je le vois encore dans la montagne, et je suis avec mon tonton, donc celui qui a la théorie sur Thomas Vaucler. Et là, il me dit, non mais c'est incroyable. Et puis bon,
c'est
lui,
Morzine, je crois.
C'est certainement Morzine. Étant un poète, il me dit, ouais, mais il est dopé. Bon, c'était un peu long à écouter, mais je revois ce...
Ton tonton a l'air un peu vénère sur le cyclisme, mais en même temps, regarde tous les tours.
Mais il est médecin, donc d'un autre côté, voilà.
Oui,
il y a plein de théories. Hein. Zidane, dopé. Je sais pas quoi. Jalabert, 5 poitures en plus, dopé. Enfin,
Jalabert, pour le coup, c'est... autant Armstrong, j'y crois pas, autant Jalabert.
Voilà. Claude de Colanta, dopé.
Je sais pas si tu le revois, Thibaut, se verser des gourdes sur la tête pendant des heures et des heures, et il monte, mais on dirait une machine. Et bon, voilà, faut savoir que ce tour-là, lui, tous les gens sont impressionnés par la victoire qu'il a en 2006. C'est Armstrong lui a dit, t'es un Américain,
je suis le dernier américain à gagner le Tour de France, tu ne le gagneras jamais. Ouais. Il le gagne juste après.
C'est vrai.
Voilà, il y a une sorte de fierté.
Il est
ravi de gagner. Et puis derrière, bah, il se fait attraper pour dopage, plein d'indices. Et là, il se fait déglinguer. Mais quand je dis déglinguer, c'est que tout le monde l'allume dans tous les sens. Alors que t'as Armstrong, qui est, lui, il le sait en plus, qu'il a été la
même équipe.
Qui est, on ne l'a pas encore dit, c'est pas confirmé
dans
l'émission,
qui est
éventuellement dopé.
Hein.
Voilà, lui, il se fait attraper et puis il se fait mais salir dans tous les sens, tricheur, etc. Et là, il va avoir un petit coup de rage. Il va se décider de faire une petite lettre ouverte un soir devant son ordi. Il écrit un petit mail.
Et c'est souvent comme ça que ça finit, en fait. T'es trahi par les tiens.
Oui, il envoie un mail.
Les grands criminels sont trahis
et dans ce mail, il balance tout et notamment Lance Armstrong.
Mais il en a gros sur la patate. Hein.
Il en a gros.
Mais c'est vrai que dans tout ce documentaire, c'est déjà, enfin, c'est pas une déchéance, mais tu vois un peu l'avant-après de Floyd et tu dis. Je trouve qu'il y a un peu un destin gâché.
Tout à fait, mais t'as complètement raison. Je trouve très pathétique Floyd dans le documentaire.
Puis il a grossi en plus. Hein,
il a pris un peu, mais ça, bon.
Mais Floyd, c'est pas un amiche ou un mec d'une communauté traditionnelle américaine. Je l'ai plus en tête, mais
c'est
un souvenir.
Un truc mormon.
Ah, il est mormon, d'accord. Je pensais, ok.
Il y a deux flics là-bas, d'ailleurs, qui sont mormons aussi. C'est deux flics amiche. Alors.
Alors. Et on n'a pas un jingle pour.
Ouais, non.
Tous les miennes.
Heureusement, parce que je devrais appuyer sur R tout le temps.
C'est vrai.
Donc il avoue être dopé. Là, ça va être saisi par la Food and Drug Administration. Moi aussi j'ai eu 10 en anglais.
FDA.
Par l'intermédiaire de Jeff Nowitzki, qui va ouvrir une enquête. Jeff Nowitzki, qui est connu pour avoir fait tomber Marianne Jones, la sprinteuse, dans l'affaire Balco. Ça y est, Armstrong, c'est mort. C'est fini pour lui.
On vous invite à regarder les photos de ce Nowitzki, parce qu'il fait peur. Tu dis, lui, s'il te tombe dessus, qu'il tape à ta porte, je donne tout. Non, c'est moi. Tu vois, voilà.
Mais finalement, il n'a pas tout donné parce que l'enquête, elle s'arrête en février 2012.
Oui, tout à fait. Donc ça, c'est un peu étonnant. On se dit que, alors, visiblement, il y a des rumeurs. Encore une fois, on n'a pas éventuellement de preuves. McCain aurait appelé le ministère de la Justice pour faire tomber un peu ça. Mais il y a quelqu'un qui ne va pas s'arrêter là. Il s'appelle comment ?
Travis Taggart.
Eh oui, il s'appelle Travis Taggart.
C'est 17
parce que autant l'UCI a l'air d'être copain comme cochon avec Lance, autant l'agence anti-doping américaine ne l'est pas. C'est ce que j'avais envie de dire.
L'agence anti-doping, on pourrait l'appeler comme ça tout à l'heure.
D'ailleurs, on va le renommer OPO. l'agence anti-doping.
Travis Taggart, qui est avocat, qui est directeur de l'USADA, l'agence anti-doping, et qui a beaucoup de points communs avec Lance. Déjà, il fait du vélo, il a le même âge. Et par contre, lui, contrairement à Lance, lui, il aime beaucoup la justice, un peu le Batman de l'histoire. Et donc, par ses recherches, on va voir qu'il va faire tomber Lance. Il y a plusieurs dates qu'on va essayer de dire rapidement un petit peu. Là, ça y est, on va vous amener des preuves.
Ouais, alors des preuves. Bon, on va rentrer dans le jeu. Mais bon, mai 2011, c'est vrai, il y a Tyler Hamilton, c'est un lieutenant qui dit « Oui, moi, je l'ai vu s'injecter de l'EPO. » Bon. Moi, je pense que c'est du buronzant, mais ok, passons. Déjà, c'est un premier témoignage, enfin, ou un 14e témoignage. Ensuite, mai 2011, on a, selon CBS, une chaîne américaine, Georgine Capi, le seul coureur qui a accompagné Armstrong dans ses 7 tours. Donc, ça, c'est quand même.
Qui a un très grand ami de ça fait du bruit, hein, parce que c'est son plus fidèle lieutenant.
Et il lui dit bah ouais, c'est vrai, il s'est peut-être dopé. Il dit ça aux agents fédéraux, c'est pas n'importe qui.
Ils sont encore copains aujourd'hui.
C'est FBI.
Ça, c'est fou. Alors, certes, Georgine Capi n'a plus de bras et plus de jambes depuis qu'il a vu un lance, mais ils sont toujours amis.
Au mois de juin, qu'est-ce qui se passe?
Au mois de juin 2012.
Bah là, c'est l'agence antidopage américaine qui lance
officiellement l'enquête.
Oui.
Et là, alors là, il y a tout le monde qui va payer. Hein. Enfin, Brunel, Ferrari, Luis Del Moral et plein de gens que je connais pas. Et là, il y a quand même un petit truc déjà. En juin,
Pépé Marty,
on dirait un collègue dans un jeu vidéo.
Un personnage de Zorro.
Le Texan, Armstrong se voit interdire de participer à des compétitions de triathlon. Donc ça y est, déjà ça se resserre un petit peu. L'étau se resserre.
Samuel.
Et Samuel Eto'o aussi, ça marche, c'est mieux parce que c'est OPO.
C'est mieux. Et là, l'étau se resserre, comme tu dis.
Et Armstrong, il essaye de stopper l'hémorragie.
Il essaye de trouver des vices de procédure.
Il a des avocats.
Il a des avocats, il dit on va stopper la procédure disciplinaire devant l'agence anti-doping. américaine et finalement on ne la stoppe pas. Et non, on peut pas la stopper.
Et ouais, parce que qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et ben, le tribunal fédéral d'Austin dit: mais non, nous on a rien à faire là. C'est pas au tribunal américain de trancher. Oui. C'est à l'USADA. Vous voyez avec l'USADA, Monsieur Armstrong.
On est toujours trahi par les siens.
Tout
même
est
Austin,
une question
Texas.
De jury.
On est traduit par Michael et siens. Et le 23 août 2012, beau. Armstrong renonce à faire appel. Hein, oui. Il peut rien faire, le petit gars. Et l'agence américaine, et ben qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire l'agence américaine?
L'agence américaine, elle annonce qu'il sera privé de tous ses résultats depuis le 1er août 1998.
Si c'est avéré.
Et notamment, c'est cette victoire dans le Tour de France et radie à vie du cyclisme.
Et alors, attendez, parce que qu'est-ce qui se passe le 10 octobre 2012 et là, c'est la bascule.
L'USADA, elle va dévoiler un rapport de 202 pages accompagné de quelques 1000 pages de témoignages.
1000 pages.
Beaucoup. Alors, j'ai déjà fait un conseil de discipline quand j'étais surveillant. Il y avait 8 pages.
Oui.
Et croyez-moi,
c'était contre toi le conseil
non,
de.
Non, j'étais surveillant.
Non, c'était contre la dame.
Il en faisait des sottises, hein, croyez-moi.
C'était contre la dame qui pédalait mal sur le vélo dont Thomas parlait.
C'était chargé, c'était Mama O'Reilly.
Moi, je pense que c'était surtout contre le docteur Ferrari.
Ouais, non, enfin, il faut savoir que voilà, sur Armstrong, il a accusé quand même d'avoir monté le plus gros programme de dopage, le plus sophistiqué, enfin qui a jamais
été pensé par une tête humaine.
Bah c'est assez incroyable quand même tout ce qui s'est passé. Et c'est assez accablant parce que il y a plein de coéquipiers qui vont témoigner contre lui. Alors là, je suis bien content de tomber sur la liste des noms avec la prononciation. Donc je me lance. C'est parti. Vous me corrigez si je me trompe.
Moi, je les adore.
Je le tente rapide pour faire un peu style. Frankie Andreou, Michael Barry, Tom Danielson, Tyler Hamilton, George Hincapie, Floyd Landis, Levi Leifheimer, Stefan Schwartz, Christian Van de Velde, Jonathan Voterst et David Zabriskie. La liste n'étant pas exhaustive.
Tout à fait. Là, il peut se sentir trahi. Le Nain, c'est là, c'est quand même. Alors, excuse-moi, Thibaut, mais là, c'est accablant, non?
Et là, qu'est-ce qu'on en conclut? Qu'il y a une discrimination pour les sportifs qui ont eu des cancers. Voilà, c'est moi ça. C'est en tout cas la conclusion. Non, on continue l'histoire, on déroule le fil.
Il
perd son équipementier, Nike. Fini les bracelets. Et moi, qu'est-ce que je fais de mon bracelet Livestrong jaune?
De toute façon, Livestrong, oui, c'est-à-dire que Nike, de toute façon, Livestrong, ça n'existe plus pour lui.
Oui,
Et on lui prive des titres du Tour de France et d'un palmarès même des critériums, etc. Je crois qu'il n'y a pas que le Tour, le critérium du Dauphiné 2002, 2003.
La bascule dont tu parles, ou le coup de grâce, c'est marrant, l'UCI qui dit, McQuaid, le président de l'UCI, il n'a aucune place dans le cyclisme, alors qu'ils l'ont peut-être tant protégé pendant si longtemps, mais que maintenant, il n'y a plus de moyens de le protéger parce que tout le monde est d'accord, donc c'est toujours assez drôle. Ça me fait penser à Blatter ou à des salauds comme ça, ou des Djokovic ou à des
salopards. Et voilà, donc le voilà, Grosjean comme devant. Il estimera que sa perte financière, je sais pas comment il calcule ça, peut-être avec des calculatrices, alors 3 plus 4 plus 6.
Il a une calculatrice Casio.
Est estimé à 100 millions de dollars.
Oui.
Bon, je sais pas, il va payer lui-même de l'argent pour être un peu tranquille. Et le 17 janvier 2013, un peu à la surprise générale et à la surprise de ses proches, il va décider de parler, mais pas chez n'importe qui.
Non.
Alors c'est pas encore Michel Drucker, c'est un tout petit peu moins bien,
c'est
mais c'est pas mal quand même.
Américain.
C'est évidemment Oprah Winfrey. Et quand Oprah lui demande s'il a des regrets, voilà sa réponse.
Vous triomphez de la maladie, vous gagnez 7 fois le tour, vous faites un mariage heureux, vous avez des enfants, c'était une histoire trop belle pour être vraie. Et ça n'était pas la vérité.
Lance Armstrong a raconté aussi que dans le sport cycliste, se doper faisait partie du métier.
Je ne veux accuser personne. Je ne veux parler de personne. Juste de ce que j'ai fait et de mes erreurs à moi. Les pratiques étaient ce qu'elles étaient.
Alors les pratiques étaient ce qu'elles étaient. Est-ce que ça veut dire que quand on fait du cyclisme, on est obligé de se doper?
Bien sûr que non, nous ne tomberons pas dans cet écueil.
En tout cas, c'est ce qu'il insinue dans cette phrase en disant « elles étaient ce qu'elles étaient ». Donc il parle au passé, mine de rien. Mais donc il est exclu de toute façon de ce milieu. Donc il laisse un monde complètement ravagé, un champ de ruines. Et on peut quand même imaginer que ces pratiques n'ont pas forcément été nettoyées aujourd'hui.
Ce que je trouve assez rigolo là-dedans, c'est je fais un petit parallèle avec l'époque.
Ibrahimovic.
Avec ma grand-mère cette fois-ci, donc c'est presque pareil. Ma grand-mère, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait une affaire avec Cahuzac. Et je m'en souviens très bien parce que j'avais pour habitude de dîner avec elle le mercredi soir pendant un moment, bref. Et elle me dit, oh, tu te rends compte? Qui l'est volé, c'est pas grave, mais qui l'est menti?
Et oui.
Et là, ouais, et je trouve que c'est assez intéressant parce que là, nous, on est dans le truc, c'est
Oh non, mais là, quand il a avoué, vraiment, parce que tout le moment où il était, où on avait les suspicions, bon, bah, il gagne, etc. Et maintenant qu'on sait qu'il a menti, c'est ce mensonge-là, et le fait qu'il ait traîné vraiment les gens dans la boue et qu'il ait dit, avec fierté, non, j'ai jamais triché, alors que bon, dans le fond, on est tous contre Lance Armstrong, alors qu'on sait qu'ils sont tous dopés. La théorie de mon tonton, elle est certainement valable.
Alors moi, j'ai une théorie quand même.
Tout le monde est dopé. Tout ce qu'on a vu de notre enfance, c'est que des dopés. Virenque dopé, Jalabert dopé, enfin voilà. Donc c'est un. C'est, je pense qu'il y a le côté mensonge joue beaucoup parce qu'ils sont tous dopés à cette époque. Pas tous, excusez-moi pour les non dopés.
Qu'il a été drogué pour mentir là.
Pour dire quelque chose de faux.
Je t'ai relancé, j'ai dit laisse parler Thibault, je pensais que c'était sérieux.
C'est intéressant de savoir est-ce que tout le monde est dopé, est-ce qu'on met tout le monde dans le même panier. Non, on l'a dit, le cyclisme c'est un des sports dans lequel il y a le plus de tactique possible. C'est vraiment un sport intelligent. On l'a dit des tonnes, enfin vraiment. Enfin,
oui, non, mais
pour
bien
gagner
sûr,
un
bien
tour,
sûr,
il suffit pas juste de pédaler. Malgré tout, comme l'haltérophilie, comme la course en athlétisme, il y a de la performance pure, un peu moins si tu fais du tir à l'arc ou de l'escrime, c'est un peu moins le cas. Et donc du coup, t'es encore plus. Il y a aussi du dopage possible dans tous ces sports.
Tout à fait, ouais.
Mais ce sport-là, il faut quand même pédaler, aller d'un point A à un point B le plus rapidement possible.
C'est le sport qui exprime le mieux, entre guillemets, la capacité à d'un être vivant de se doper et d'avoir des résultats
et
grâce au dopage.
Malheureusement, ouais, il prête le flanc ce sport-là, peut-être un peu plus que d'autres à du dopage.
Oui, Chloé.
Moi, ça va être complètement mon avis personnel, donc je dis pas que c'est une théorie vraie ou quoi que ce soit, mais le vrai problème que j'ai avec lui, c'est pas tant qu'il se soit dopé ou qu'il ait menti ou quoi, enfin menti un petit peu quand même, pas trop ça, les menteurs. Mais en vrai, c'est qu'en plus, c'est un mec, quand tu entends ses coéquipiers, ses équipiers en parler à l'époque, il était menaçant, il était terrifiant, c'était un tyran. Il fallait tout faire pour que lui soit mis en valeur et tout. Pendant donc 7 ans, il a dominé le Tour de France. Enfin, c'était le rapport miraculé, égoïste, quoi. Cette espèce de self-made man, je sors de nulle part, j'ai une vie triste et aujourd'hui j'ai tout perdu. Ça, je trouve ça absolument insupportable.
Ça, j'entends.
Et alors, t'entends assez bien, t'as mis une heure et demie à entendre. Alors, il s'excusera quand même, hein, il essayera peut-être de faire son mea culpa s'il n'est pas trop tard. Il s'excusera publiquement auprès de Emma O'Reilly, justement. Il s'excusera même auprès de Simeoni. Tu l'as dit, Thomas, en tout début d'émission, il ira voir et partager des binous avec Jan Ullrich, qui lui, il finit vraiment mal puisqu'il finit en hôpital psychiatrique.
Alors que Lance, il s'en fout.
Il y a un seul, ça m'a fait barrer, puisqu'il y a un seul avec qui. Il s'excuse pas quand tu lui demandes et Landis, écoutez, moi j'ai pas de regret sur être dopé, dit Lance Armstrong. J'aurais pu finir comme Landis, habiter je sais pas où et être une bonne grosse merde.
Voilà. Comment
c'est
tu veux
tellement ultra violent.
Et oui.
C'est difficile. C'est difficile. Peut-être qu'un jour il y aura une photo de Landis et Armstrong main sous la main.
Il a un podcast aujourd'hui.
Il s'appelle Move. Tout à fait.
C'est en anglais, donc c'est dur à écouter quand on a eu 13 comme moi.
Qui est très écouté, je crois.
Il y a Jan Ullrich qui a fait un épisode.
Ouais, qui est apparu, ouais, tout à fait. Et il veut profiter de sa femme, de ses enfants.
C'est une nouvelle.
C'est une nouvelle
Oui, c'est plus Christine, c'est Anna, quelque
oui,
chose.
Oui.
C'est, parce qu'entre temps, tu
avec
l'as
deux
dit,
nouveaux enfants.
Il s'est tapé un peu des meufs plutôt connues.
Il s'est tapé McConaughey et compagnie. Alors. Et voilà, gentil ou pas, le lancement, il y a un truc quand même, c'est que lui, il a beaucoup morflé. Je déteste Lance Armstrong. Mais c'est vrai qu'il y a certains autres cyclistes à qui on n'a pas retiré les titres, à qui on n'a pas voilà, donc je mets ça là, vous en faites ce que vous voulez.
Mais moi je vais en faire quelque chose.
mais c'est vrai qu'on peut se poser la question. Alors lui, il était particulièrement exécrable,
mais ce qui a été puni, c'est surtout son implication dans l'organisation et la logistique en fait de tout ça, alors que les autres sportifs, quand bien même ils avaient été entre guillemets pris la main dans le sac et dans le pot belge, on leur a pas forcément trouvé de ramifications, de direction, de stratégie autour du dopage. Et en fait, ce qui a été reproché donc à Lance Armstrong et donc sanctionné par des retraits de titres, c'est avant tout le fait d'avoir été l'instigateur
que vous le vouliez ou non. Je creuse ma tombe définitivement.
oui bravo.
Que ce soit le système le plus organisé de dopage que vous vouliez, ce qu'il a organisé au team aussi en termes d'entraînement, de préparation, c'est assez unique au monde quand même. C'est-à-dire que peut-être qu'il ne mérite rien.
Mais au détriment de la santé de ses coéquipiers et surtout en ayant
Zlatan pour le coup. Zlatan, il arrive au PSG, c'est l'homme le plus soi-disant prétentieux du monde.
Oui.
Derrière, il impose un professionnalisme hors pair et tout le monde le respecte et il n'a pas besoin de chier sur ses rivaux ou quoi que ce soit.
Il nous a dit qu'il tapait.
il a eu des phrases assez dures. Il a déjà dit... dans un vestiaire. Non, mais j'ai l'impression de jouer avec mes fils qui ont 7 et 8 ans. Enfin, des,
oui,
ouais, des trucs pas cool.
Non, mais, je vous accorde après une heure et demie d'épisode que Lance n'est peut-être pas très gentil.
Ah, non, mais il a aussi, après, voilà, moi j'ai juste une dernière chose et puis j'invite les, à la limite les gens, pourquoi pas sur.
Chez moi, j'invite les gens chez moi.
c'est trop petit pour l'instant.
Thomas est
non,
sympa,
mais j'aimerais bien, qu'on arrive à me convaincre parce que du coup, ma génération de personnes de 30 ans et un peu plus, je pense que nous, on a vécu, donc on regardait les Tours de France vers de 10 à 15 ans, puis t'as ce truc, t'as cette histoire-là qui arrive, donc je sais qu'il n'y a pas que Lance Armstrong.
Mais t'adores le cyclisme quand même.
Et ben, non, aujourd'hui, tu vois, le Tour de France, en fait, je trouve que c'est pas hyper médiatisé le Tour de, enfin, la bicyclette en général, puisque ça a lieu une fois par an,
mais
où les JO, c'est là que tu vois.
Ou des champions français comme ça.
Bah, quand tu le vois, ça te redonne envie, mais j'ai quand même un goût d'amertume, et c'est vrai que j'ai du mal à me.
Je comprends. On a eu un vrai titre de champion du monde, quand
même. Je dirais pas. Armstrong, je dirais le dopage. Par contre, Lance Armstrong a quand même volé 7 ans de trucs. Voilà, comme Materazzi nous a volé le football.
Et j'aimerais emboîter le pas. Il a aussi, malheureusement, créé une publicité négative autour de ce spectacle qui est un spectacle annuel et qui est une grande sorte de grande messe télévisuelle aussi, il faut aussi le dire, donc avec beaucoup de sponsors, etc. Et en fait, il a créé une forme d'inimitié auprès, tout simplement, des cyclistes, en fait.
Ouais, mais moi, j'aimerais bien juste être convaincu du comment convainquez-nous d'aimer le cyclisme aujourd'hui, quoi.
Très bien. Alors, vous savez ce qui tombe très très bien après tout ça?
Oui.
Bah, c'est l'anti-doping.
J'étais sur la liste des joueurs qui passaient au contrôle anti-doping. Donc, il fallait faire la petite chose.
N'oublie pas la petite goutte, hein.
Attends, voilà, c'est fait. Bon, après toutes ces émotions, je me suis dit qu'il fallait redonner un peu d'espoir en l'humanité et trouver une belle anecdote de solidarité où l'esprit du sport nous réconcilie durablement avec le genre humain. Mais, y a un mais. Malheureusement, pour vous, une curiosité malsaine, presque maladive chez moi, a pris rapidement le dessus. Et 2-3 recherches internet plus tard, je suis tombé sur les classements des triches les plus scandaleuses du sport.
Et tout ça sur Pornhub, hein.
Oui, entre deux.
Et en extrême maintenant.
Que Younes n'a pas internet.
Alors, ce classement, il a été un peu utile pour moi, à titre personnel, pour
c'était
placer. Parce que j'avais besoin de placer Lance Armstrong dans une forme d'échelle, en fait, de la saloperie. Et il est pas si mal en fait, hein, mine de rien. J'ai sélectionné quelques champions. Évidemment, je vais pas vous parler des champions, des championnes est-allemandes, des nageuses est-allemandes, les fameuses, ou de Ben Johnson, si vous en souvenez, celui qui a été complètement radié à vie après avoir été chopé sur le 100 mètres. C'était trop facile. J'ai trouvé des petites pépites, notamment Rosie Ruiz, coureuse américaine. Vous savez ce qu'elle a fait? Pendant le marathon de New York, le 21 octobre 79, elle a pris le métro, tout simplement.
Ah oui, je me rappelle, ça dit quelque chose.
Une tricherie si grosse qu'elle passera dans un premier temps.
Bon, elle, tu vous voyez, elle est conne, par exemple.
Pas tant que ça, Thibaut.
Départ, hein.
Mais non, pas tant que ça, Thibaut. En fait, elle est pas si conne que ça parce qu'en fait, elle gagne, elle arrive 11e, elle a raison, et que pour, au bout de 30 minutes, elle était à bout de force, donc elle décide de prendre le métro. Elle fit un temps de 2h56 et termine 11e.
Mais comment elle arrive à faire un temps de 2h en prenant le métro, je comprends?
Ah non, mais quand même,
elle a attendu, évidemment.
C'est ça, c'était la RATP.
Elle a pris la ligne 13 en fait, c'est ça.
Et ben, grâce à ce temps, elle fut directement inscrite au marathon de Boston auquel elle a ensuite participé. Et devinez quoi? Elle reprend le métro.
Non, c'est pas vrai.
À Boston, oui, tout à fait. Elle finit par se faire gauler là, quand même, parce que il y a des gens qui témoignent qu'ils l'ont croisée dans le métro, qu'elle a passé une barrière, etc., etc.
C'est génial.
Voilà, bon, c'est pas la seule. Il y en a encore un qui est plutôt pas mal. Celui-là m'a fait rire quand même. C'est Panama Lewis.
Panama Lewis, c'est génial.
De toute façon, vous l'aurez compris, on n'avait pas les droits pour mettre des vrais noms de gens. Voilà. On a que des faux noms.
En fait, on s'est inspiré des noms de PES. Hein.
C'est ça. Et lui, c'est un boxeur. Et vous savez ce qu'il fait à la place de la mousse? Il remplace la mousse par
des fers à cheval?
Par du plâtre.
Mais non.
Et voilà.
Non. Donc, mais attends, ses points doivent être. Il doit galérer quand même.
Voilà, il met KO son adversaire. Et malheureusement pour son adversaire, il perd un œil.
Ah oui, non, ça
voilà.
moins rigolo.
Heureusement, la patrouille le rattrape et il fera 4 ans de prison pour ça.
Oui, tu m'étonnes.
Mais c'est pas la pire histoire. Ouais, alors ça, c'est vraiment un jugement de valeur, mais pour moi, c'est la pire, celle que je vais vous raconter. Je pense que Lance Armstrong à côté paraîtra un peu comme le Casimir local.
Oui, il l'est.
La pire histoire de toutes, à mes yeux, et je vais vous laisser juger, mais c'est à Sydney en 2000, durant les Jeux Paralympiques. Ah, tout de suite, on fait moins les malins. L'affaire avait fait scandale à l'époque chez nos voisins espagnols.
Ah mais si, on en a parlé dans un autre anti-doping.
Est-ce que c'est les gens qui sont faussement
J'en ai parlé dans
c'est
un autre.
Exactement. Et ben voilà, c'est un redit. Désolé.
Ça c'est passionnant.
La prochaine fois, on se concertera, mais je vais vous la refaire du coup. Lors des Jeux paralympiques de Sydney en 2000, l'équipe masculine d'Espagne de basket déficiente mentale avait remporté la médaille d'or. Sauf qu'après coup, le comité paralympique espagnol s'est rendu compte que 10 des 12 joueurs de l'équipe mentent sur leurs conditions. Terrible. Ce scandale avait même abouti à l'exclusion des handicapés mentaux lors des Jeux Olympiques d'après les Jeux Paralympiques d'Athènes en 2004. Le comité international paralympique considérant qu'il était trop difficile de déterminer le niveau de handicap des athlètes déficients. Le verdict ne fut rendu que le 13 ans plus tard, quand même. Sur les 19 personnes accusées dans l'affaire, seul le président de la Fédération espagnole des sports pour les handicapés intellectuels, Fernando Martín Vicente, a été condamné. Sa peine, une amende de 5 400 euros pour fraude et mensonge, et a remboursé près de 150 000 euros de subventions publiques versées par l'État pour les athlètes. Martín, donc, à l'époque, évidemment
Martín qui était à la plage, non? C'était oui, Martín à la plage. Ouais.
Démissionnaire.
Martín au JO, du coup.
Martín au JO, au JO paralympique. Démissionne de son poste après le scandale et qui avait accepté à l'époque l'entière responsabilité. Donc il a complètement assumé.
C'était
du basket. Des erreurs soulignant que l'évaluation des handicapés mentaux était difficile. Donc c'est ce qu'il a plaidé. Si quelqu'un veut tricher, c'est dur à détecter. C'est facile de faire semblant, il dit. C'est facile de faire semblant que tu as peu d'intelligence. Voilà, c'est comme ça qu'il s'est défendu. Donc il n'a pas arrangé son cas.
Wow.
Mais malheureusement pour lui, ce petit escroc, il y a parfois des gens qui font bien leur métier. Et il y avait un journaliste, et oui, il avait infiltré l'équipe, Carlos Ribagorda. Il était en fait journaliste, et donc totalement valide. Bravo à lui. Après qu'une photo des vainqueurs publiée dans le journal Marca a mis le feu aux poudres, sur laquelle plusieurs joueurs avaient été démasqués, Carlos avait alors tout dévoilé. Avec notamment cette anecdote qui en disait long sur la fraude pendant le tournoi paralympique de Sydney. L'anecdote, c'est la suivante. Lors de la deuxième mi-temps du premier match contre la Chine, nous gagnions facilement de 30 points. L'entraîneur les regarde et leur dit « Les mecs, il faut qu'on lève le pied. »
Ils sont tous...
En fait, Carlos, journaliste du magazine économiste espagnol Capital, faisait partie de la sélection paralympique espagnole de basket depuis 1999, donc il les avait infiltrés depuis un petit moment. Dénonçant les contrôles peu stricts pour évaluer les déficients mentaux, il avait ainsi assuré qu'en guise d'examen médical, il n'avait subi qu'un test de pression sanguine après avoir fait 6 pompes.
Oh.
La question qu'on peut se poser, c'est...
Moi, je peux pas les faire. Merci beaucoup, Younes. Merci beaucoup. Oui, c'était quoi la question qu'on peut se poser?
Quel intérêt, quand t'es valide et normal, de vouloir être champion paralympique en déficient mentaux? C'est un peu débile, pour le coup.
C'est pour avoir la gloire, non?
Un film espagnol le raconte, un film de 2018 qui s'appelle Champions, et qui est une comédie, qui essaye de rire de cette situation, car c'est une situation qui a mis la honte à l'Espagne.
Oui, bien sûr.
Et qui a été très compliquée à gérer dans les médias.
Heureusement qu'il y a eu la Casa des Papels depuis pour honorer le blason du pays.
Bravo.
Merci beaucoup, très cher. C'était même pas dopé aujourd'hui pour faire l'émission. Enfin, je crois pas. Faudra quand même qu'on voit
le contrôle anti-doping
ce soir.
Oui,
comme Lance,
bien sûr.
À tous la petite chose.
Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Peut-être un peu long, je ne sais pas. Je vais pas regarder le chrono.
6h15, il y a écrit 6h15, sur le
c'est pour
scan.
Ça que je suis un peu fourbu des jambes. Suivez-nous sur les réseaux sociaux.
Et oui, suivez-nous sur les réseaux sociaux et suivez nos copains.
D'abord suivez-nous.
On est sur Instagram, on est sur Twitter, on est sur Facebook.
Sur LinkedIn, sur Copain d'avant. J'ai fait la même blague dans 2 heures de perdu hier, c'est génial.
Écoutez 20 minutes.
Relisez ce salaud de Tintin.
Oui.
20 minutes avant la fin du monde. Et nos copains adorés de Culture 2000, vous pouvez aussi nous donner des idées de sujets. Là, on commence à être un peu à court parce qu'on essaye, on évite absolument de faire Zlatan et on n'y arrive pas. Thomas nous le demande tous les soirs.
Il est déjà tout prêt.
Donc n'hésitez pas en nous mettant un joli commentaire sur Apple par exemple. Et voilà, donc on se quitte en musique. On se revoit le mois prochain avec le retour de Sarah.
Oh Sarah.
Et voilà, bonne soirée à toutes
et
à tous.
Bisous,
au mois prochain.
À tout le monde.
Did it, did it, did it, did it, did it.